Vous êtes sur RTL.
Entendu maintenant avec vous Yves Calvi, bonjour.
Soyons généreux, vous avez raison. Merci Julien, bonne journée à toute l'équipe et bonjour à tous. Faut-il imposer un passeport vaccinal pour reprendre une vie normale? La question est désormais régulièrement soulevée puisque sur le papier elle permettrait d'accéder à des restaurants rouverts, des salles de sport qui en ont besoin, voire pourquoi pas des salles de spectacle vivant. Débat à 7h15 avec Stéphane Manigold qui est restaurateur et porte-parole du collectif Restons Ouverts, il sera avec nous. À 7h40, Alba Ventura reçoit la professeure en maladies infectieuses Anne-Claude Crémieux. La vaccination française a-t-elle pris un bon tempo? Quelles inquiétudes concernant le fameux variant anglais dont tout le monde nous parle? Et doit-on envisager un possible reconfinement? Ces trois questions lui seront posées. Enfin, le coup de fraîcheur du moment à 8h20 avec le professeur David Kayat, l'ancien patron de l'Institut National du Cancer, nous lance ce défi plutôt joyeux. Arrêtons de nous priver. J'ai bien dit arrêtons de nous priver. Le livre vient de paraître aux éditions Albin Michel et pour couronner le tout, c'est une tarte au sucre dont Cyril Lignac nous propose la recette. Nous serons juste avant 9h. Nous sommes le mardi 12 janvier 2021. Excellente journée à vous tous qui nous écoutez. RTL, il est 7h.
RTL Matin, Yves Calvi.
Le journal avec Dominique Tenza. Bonjour Dominique.
Bonjour Yves et bonjour à tous.
Vaccination mode d'emploi ce matin sur RTL.
Prise de rendez-vous dès jeudi sur Internet. Inscription, déroulement, nous allons vous détailler dans quelques secondes la marche à suivre. Vers un troisième confinement, véritable hypothèse ou simple rumeur? Dans un instant, les toutes dernières informations de notre service politique. Dans ce journal, également les ventes de jouets qui, malgré les difficultés, se sont maintenues l'an dernier. Les stars du foot vont-elles devoir baisser leur salaire? On se posera la question. Et puis Renault ressuscite la 4L. Oui, la 4L, version électrique, évidemment.
Dès la fin du journal, la politique, Olivier Bost.
Et ça bouge à gauche, oui. Il y a des nouveaux prétendants à la présidentielle et des éléphants encombrants.
RTL Matin.
138 000 Français vaccinés à ce jour, c'est mieux, mais sans doute encore trop lent. La campagne devrait s'accélérer alors qu'elle entre dans une nouvelle phase. Dès la semaine prochaine, les plus de 75 ans pourront bénéficier à leur tour du vaccin. Il faudra pour cela s'inscrire dès jeudi, après-demain donc, sur Internet. Bonjour Sophie Orange.
Bonjour.
Grâce à vous et la brigade RTL, ce matin, vous allez tout nous dire sur la marche à suivre. Première étape, Sophie, trouver le centre le plus proche.
Et pour cela, vous allez sur santé.fr, vous tapez votre adresse et une liste de centres apparaît. Ensuite, deuxième étape, prendre rendez-vous. Soit vous allez sur le site internet du centre hospitalier, soit vous l'appelez directement, soit un lien vous dirige directement sur une plateforme de prise de rendez-vous. Le gouvernement en a choisi trois, Doctolib, Maya et Keldoc. Vous pouvez aussi aller directement sur leur site pour choisir un créneau.
Et ensuite, c'est comme quand on prend rendez-vous chez le médecin?
Exactement, on vous propose plusieurs possibilités. C'est vous qui choisissez. En passant par Doctolib, vous prenez même rendez-vous pour les deux doses. C'est le centre qui ouvre un nombre de créneaux adapté au nombre de doses reçues, un multiple de 5 ou 6 donc, en fonction des injections prévues sur chaque flacon. Donc pas de mauvaise surprise, en vous déplaçant, vous serez sûr d'être vacciné.
Est-ce qu'il n'y a pas le risque d'embouteillage si tout le monde décide de se connecter jeudi en même temps?
Alors les plateformes sont plutôt confiantes, 5 millions de personnes ont plus de 75 ans. Pour Doctolib qui génère 70 millions de visites chaque mois, la vaccination est donc un petit pourcentage. Maya, l'autre plateforme, ne s'inquiète pas non plus, le site peut encaisser 4000 connexions en 6 simultané. Inscription ouverte dès jeudi, sauf une exception dans le Grand Nancy. Vaccination possible pour les plus de 75 ans dès aujourd'hui, je viens de vérifier. Si vous n'avez pas Internet, un numéro national sera mis en place, mais on ne le connaît pas encore.
La brigade RTL avec les informations ce matin de Sophie Orange. Merci beaucoup Sophie. Et je vous le rappelle, l'invité politique ce matin, Anne-Claude Crémieux, professeure en maladies infectieuses à l'hôpital Saint-Louis. Elle sera avec nous, elle répondra aux questions d'Alba Ventira. Alors c'est désormais, vous le savez, le variant britannique du virus qui inquiète les autorités. De nouveaux cas ont été détectés hier au sein d'une même famille.
À Cholet, dans le Maine-et-Loire, 3 personnes infectées, dont une qui a dû être hospitalisée. Face à cette situation, les rumeurs d'un reconfinement total se font de plus en plus pressantes. Nouveau conseil de défense prévu demain matin, nouvelle prise de parole jeudi, avec Vincent Derosier, des consignes sans doute encore plus radicales.
Oui, et décidément, les jeudis se suivent et se ressemblent. D'après nos informations, le gouvernement se prépare encore à durcir les mesures sanitaires. Trois hypothèses tiennent la corde. La première, la plus probable, c'est celle d'un couvre-feu à 18h, étendu à toute la France. Autre hypothèse, plus dure encore, celle d'un couvre-feu national à 18h, assorti d'un confinement le week-end. Enfin, l'hypothèse du confinement total est encore dans les cartons, mais en dernier ressort, l'exécutif la garde sous le coude si l'épidémie était à nouveau hors de contrôle. Et tout cela doit encore être définitivement arbitré mercredi en Conseil de défense. Car d'ici là, Jean Castex doit recevoir sur son bureau deux éléments cruciaux qui pourraient faire pencher la balance. D'abord, les chiffres de l'épidémie, deux semaines tout juste après le réveillon du Nouvel An. Et puis, le Conseil scientifique doit remettre un nouveau rapport très attendu, notamment sur la question de l'efficacité du couvre-feu à 18h.
Merci Vincent Derosier du service politique de RTL. On évoquait il y a quelques minutes la vaccination. BioNTech, le laboratoire allemand associé à Pfizer, affirme être en capacité de fabriquer 2 milliards de doses cette année. Insuffisant néanmoins pour atteindre une immunité collective, estime l'Organisation mondiale de la santé, qui appelle les pays à continuer d'appliquer les gestes barrières. C'est l'une des conséquences assez inattendues chez nous en France de cette pandémie et de son impact économique, l'augmentation dès le mois prochain des tarifs réglementés de l'électricité, plus 2%, en moyenne 16 euros par an et par foyer, une hausse qui s'explique en partie par des impayés, des particuliers, des commerçants incapables de régler leurs factures. Une situation que connaissent également nos voisins espagnols. Là-bas, le spectre d'une nouvelle crise économique se rapproche chaque jour un peu plus. À Madrid, pour RTL, Diane Cambon.
Les Espagnols doivent se serrer la ceinture en ce début d'année marqué par une hausse générale des prix. Une augmentation qui est plus dure à avaler alors que la pandémie du Covid-19 a détruit des milliers d'emplois. Ici, dans un bar du quartier populaire de Vallecas, à Madrid, les habitants sont consternés.
On n'a plus d'argent. L'essence a augmenté. L'électricité, les sodas.
C'est partout la hausse. Ce matin, j'ai été acheter une bonbonne de gaz. Et c'est plus cher. Entre l'assurance de la maison et l'électricité, mon salaire a disparu.
C'est surtout la hausse de 27% pour l'électricité et 6% pour le gaz qui fait le plus grincer.
Ils choisissent de monter les tarifs maintenant alors qu'il fait froid. Donc au lieu de chauffer 7 heures par jour, on va chauffer 2 heures.
Cette hausse ne pouvait plus mal tomber alors que des températures de moins de 10 degrés sont prévues ces jours-ci à Madrid. Toujours enseveli sous la neige.
Diane Cambon, la correspondante de RTL à Madrid.
C'est une légende qui fera bientôt son retour chez Renault. La marque aux losanges s'apprête à relancer la 4L et elle sera électrique. On vous explique tout ça dans un instant.
RTL Matin.
RTL Matin.
RTL 7h07, la suite du journal de Dominique Tenza. C'est ce qui s'appelle faire du neuf avec du vieux ou comment Renault tente de réveiller la nostalgie chez ses consommateurs.
Et rien de mieux pour ça que le retour d'un modèle culte, une icône de l'automobile, la 4L, remise au goût du jour. Forcément, la version électrique pourrait bientôt circuler sur nos routes. Retour sur l'histoire d'un succès phénoménal avec Christophe Bourouf.
Fais un tour en Renault 4, demande-lui beaucoup.
Robuste, increvable, voiture aussi bien des villes que des campagnes, des postiers que des agents EDF, la 4L chantée dans les années 70 dans une pub par Michel Fugain est une méga star avec 8 millions d'exemplaires. C'est en effet la deuxième voiture française la plus vendue de l'histoire. Une vraie Madeleine de Proust sur roue, tout comme la R5, écoulée elle à 5,5 millions d'unités jusqu'aux États-Unis où elle est baptisée Le Car.
Le Car by Renault, where great engineering lives in great design for under $5,000.
Ces deux voitures iconiques pourraient donc vivre une deuxième jeunesse avec sous le capot un moteur 100% électrique, celui de la Zoé. Le suspense devrait être levé jeudi où sera dévoilé le plan stratégique du constructeur avec au volant un certain Luca De Meo, nouveau patron de Renault. Le revival automobile faire du neuf avec de l'ancien, il s'en est fait une spécialité car c'est lui qui en 2008 a relancé en Italie, la mythique Fiat 500.
Christophe Bourreau pour RTL. Renault qui prévoit également, en plus de la 4L, de relancer la R5 en version électrique. Là
on
aussi.
On va bien revoir la R16 aussi, si c'est possible.
C'est une information RTL. Elle concerne le marché du jouet qui, malgré le contexte, a terminé l'année 2020 en tirant son épingle du jeu. Certes, en baisse, moins 1,5%, mais avec 4 mois de fermeture, dont 3 semaines en novembre, les boutiques peuvent souffler. Illustration au Village Jouet Club, à Paris, un reportage d'Armel Lévy.
Fanny, 5 ans, fait la queue avec ses parents à la caisse de ce magasin de jouets.
C'est des doudous, il y a plein d'accessoires dedans.
Mais il n'y a pas que des enfants dans le magasin, il y a aussi beaucoup de jeunes adultes.
Là, c'est pour faire de la déco à la maison, donc des personnages, figurines à collectionner, des choses comme ça. Pour mon copain, pour moi, je pense que c'est le côté enfance qui ressort. Puis bah, ça permet aussi de relativiser quoi.
Et les jeux de société ont progressé de 10%. Ils représentent maintenant la première catégorie de jeux.
Bah oui, parce que les enfants, faut les occuper. Enfin, chacun, même les grands, doivent jouer. Faut faire des jeux de société. Je sais pas, faut trouver des combines pour passer le temps, ouais, c'est sûr.
L'an dernier, au printemps, pour les enfants, pas d'école, pas de fête d'anniversaire. Donc les parents, mais aussi les grands-parents, comme Nathalie, ont compensé.
Ah bon, continue à gâter les enfants, les petits-enfants, bien sûr. Ça changera pas ça.
En revanche, les ventes de peluches se sont écroulées, moins 15% l'an dernier, c'est la plus grosse baisse de l'année. Avec les fermetures, les clients ne pouvaient pas toucher, tout comme les figurines de super-héros. Les ventes dégringolent car les films n'ont pas pu sortir au cinéma.
Armel Lévy. Aux États-Unis, ils ont pour l'heure choisi de faire front commun face aux démocrates. Donald Trump et son vice-président Mike Pence se sont finalement rabibochés hier soir dans le huis clos du bureau ovale, loin des caméras. Premier face-à-face entre les deux hommes depuis les violences du Capitole mercredi dernier, tandis qu'une nouvelle procédure de destitution contre le président américain lancée par les démocrate pourrait être officialisé demain.
Le sport, il est 7h10. La Coupe d'Europe de rugby suspendue au moins jusqu'en février en raison notamment de l'absence des clubs français.
Et le gouvernement ne voulait plus voir les équipes françaises partir jouer au Royaume-Uni. Trop risqué en raison de la situation sanitaire. Le tournoi des Six Nations qui débute dans un mois a de fait également du plomb dans l'aile. Le foot aussi traverse une période compliquée. Les stades vides, le diffuseur qui ne paye plus, les stars vont peut-être devoir baisser leur salaire. Le sujet devrait être évoqué aujourd'hui entre les présidents de club et le syndicat des joueurs, Nicolas Georgerot.
Oui, dossier épineux et crucial pour le foot français. La masse salariale des clubs professionnels avoisine les 800 millions d'euros. La baisse des rémunérations est l'une des clés pour s'en sortir. Jean-Pierre Caillot, président du Stade de Reims, fait partie de la délégation pour les négociations.
Je ne suis pas dans le catastrophisme, je suis très très sérieux. On est en train de parler du sauvetage d'une filière. Il faut qu'on arrive à trouver un peu de ressources et puis d'un autre côté, il faut qu'on voie comment on peut limiter au maximum nos dépenses.
Au printemps dernier, il y avait déjà eu un accord, mais ce n'était qu'un décalage, qu'un report des salaires pour soulager temporairement les trésoreries. Cette fois, c'est bel et bien une baisse envisagée sur plusieurs saisons. L'accord ne sera qu'une préconisation. La décision sera individuelle. Olivier Dalloglio, l'entraîneur du Stade Brestois.
C'est bien qu'il y ait une concertation déjà. Après, l'état des clubs est différent. Chaque club a ses soucis plus ou moins importants. On ne pourra pas certainement pas mettre tout le monde sur le même plan.
Si toutes les parties ont conscience de l'urgence de la situation, un accord n'interviendra sans doute pas en quelques jours. L'attente d'un nouveau diffuseur du championnat, l'incertitude du mercato hivernal également, ne vont pas faciliter les discussions.
Nicolas Georgerot.
Les courses ont lieu aujourd'hui à Vincennes.
Avec les pronostics de Dominique Cordier, le 5, le 13, le 9, le 10, le 6, le 7. Hélas, la dernière minute, c'est le 9 Cabernet.
Joli nom pour un cheval.
C'était le journal de Dominique Tenza.
C'est un cheval. La politique avec vous, Olivier Bost, à 7h12. Bonjour Olivier.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
Alors à gauche, en ce moment, ça bouge et ça castagne.
Oui, parce que ça faisait longtemps que 4 ministres ne s'étaient pas mobilisés en moins de 24 heures pour taper sur la même cible. Anne Hidalgo a été critiquée par Gabriel Attal, Bruno Le Maire, Marlène Schiappa et Olivier Véran. Mmh. Et c'est bien la preuve que la maire de Paris est vue comme une menace sérieuse pour 2022. Arnaud Montebourg n'a pas encore eu tous ses honneurs. Il laisse son entourage préparer le terrain, lui, pour sa prochaine mise en orbite. Si l'opération réussit, il devrait recevoir le même courroux ministériel. Cela démontre qu'il se passe quelque chose à gauche de peut-être, je dis bien peut-être, sérieux. La charge de Jean-Luc Mélenchon contre Anne Hidalgo dimanche en est un indicateur supplémentaire. Il y a bien de nouveaux prétendants pour songer sérieusement à l'Élysée. Et ça ne fait pas que des heureux.
Vous voyez d'autres contrariés ?
Bah oui, c'est comme dans les grands repas de famille. Hein. Il y en a toujours un qui râle ou qui embarrasse tout le monde. Dans ce rôle, nous pouvons désigner ce matin François Hollande. Ah. Dans le journal Sud-Ouest, il a encore donné ses conseils aux socialistes. Des candidats, on en trouve toujours, a-t-il dit. Mais sans une dynamique et un projet, ce sont des personnalités, pas des prétendants à la victoire. Olivier Faure, le patron des socialistes, a décidé cette fois-ci de ne plus laisser passer ces pics de l'ex-président. pour les leçons de leadership et de rassemblement. Je puise ailleurs mon inspiration, a-t-il dit. Ce n'est pas non plus auprès de Ségolène Royal qu'il la trouvera. Vendredi dernier, toujours autour de la tombe de François Mitterrand, à Jarnac, pour les 25 ans de la mort de l'ancien président, l'ancienne candidate en roue libre a prôné contre toutes les recommandations scientifiques de vacciner en priorité les jeunes. Les éléphants OPS sont devenus décidément encombrants.
Mais qu'est-ce qui explique toute cette série de comportements, justement ?
Eh bien, un phénomène assez connu en politique, parfois inconscient, celui de ne pas avoir ou de tout faire pour ne pas avoir de successeur. François Mitterrand, en 1995, avait bien apporté son aide à Jacques Chirac. Jacques Chirac avait bien appelé à voter Hollande en 2012. Oui. Et que dire de Nicolas Sarkozy, qui brouille aussi le jeu à droite ? Dès qu'une tête semble dépassée chez les Républicains, Nicolas Sarkozy en dit du mal à ses visiteurs. Avec de vieux amis comme ça, pas besoin d'ennemis.
Merci beaucoup Olivier Bost. On retrouve toute l'actualité politique sur le site rtl.fr dans un instant. Et si le passeport sanitaire devenait la règle pour aller au restaurant, nous allons en discuter avec Stéphane Manigold, qui est porte-parole du collectif des restaurateurs. Restons ouverts.
Calvi, RTL Matin.
Faudra-t-il un passeport vaccinal pour reprendre une vie normale ? Certains pays sont favorables. En France, pour le moment, le sujet est évacué par nos responsables politiques. Mais certains secteurs, comme le transport aérien ou les restaurateurs, le réclament. Bonjour Stéphane Manigold.
Bonjour Yves Calvi.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes cofondateur et porte-parole du collectif Restons Ouverts. Vous avez vous-même plusieurs restaurants à Paris. Est-ce que cette histoire de passeport pourrait être une solution ? C'est-à-dire, on s'est fait vacciner, on a notre passeport, on a le droit d'aller au restaurant ou éventuellement d'ailleurs à la salle de sport ou même dans des lieux de spectacle vivant.
Alors je tiens à préciser qu'au sein du collectif, 80% des personnes sont hostiles au passeport vert. Mmh. Mais nous acceptons le débat parce que force est de constater que demain, il va y avoir un troisième confinement et que cette situation ne peut plus durer économiquement pour nos entreprises.
Vous venez de nous annoncer un troisième confinement ? C'est clair pour vous ? Il aura lieu ?
Alors, c'est clair non seulement pour nous, mais c'est clair dans l'esprit de tous les tous ceux qui nous écoutent. Il n'y a pas un franc. Enfin, 78% des Français aujourd'hui sont prêts à ce troisième confinement. Je veux dire, ils sont prêts, mais il y a des zones rouges. Ce sont les écoles, ce sont les collèges, et ça hystérise la population. Donc, il faut à un moment mettre le sujet sur la table. Comment on sort de cette crise ? En revanche, il y a un échec qui est cuisant, c'est la vaccination. Nous sommes à 138 000 vaccinations aujourd'hui de la population française. Si vous mettez un passeport, ça veut dire qu'il n'y a que 138 000 personnes qui peuvent sortir.
Alors oui, sauf qu'on espère que ça va progresser dans les jours et dans les semaines à venir. Mais pardonnez-moi, je veux qu'on reste sur cette idée. Est-ce que le fait de se faire vacciner et d'obtenir en quelque sorte un justificatif à moyen terme permettra de fréquenter des lieux qui ne sont plus ouverts et donc de faire travailler des gens qui ont besoin de travailler ?
Comme je le disais, nous on accepte le débat dans la mesure où c'est pas stigmatisant. Nous, ce qu'on ne veut surtout pas, oui, c'est que demain, ce passeport soit un espèce de QR code devant nos portes d'entrée qui est le sésame pour aller dans un restaurant.
Pourquoi ?
Ça suffit.
Pourquoi ?
Parce que ça suffit la stigmatisation. Soit c'est tout le monde, soit c'est personne. Et il faut que ce passeport, au fond, c'est la vie sociale et c'est le brassage de la population qui fait que le virus se propage. Dans ce cas-là, il faudra le mettre dans les transports, il faudra le mettre partout. Donc c'est partout ou nulle part.
Donc vous nous dites que l'utilisation d'un passeport ou d'un QR code n'a de sens qu'à partir du moment où il est totalement généralisé, je vous ai bien compris ?
Oui, puisque y compris l'Institut Pasteur, dans son rapport avec le professeur Fontané, que nous avons analysé avec des scientifiques, cet institut indique bien que les restaurants ne sont pas des clusters. Ils disent quoi ? Ils disent que c'est le fait de manger et que les premiers foyers sont à domicile et hélas, dans nos écoles. Donc, il n'y a pas, quand on prend les trois foyers de contamination de l'Institut Pasteur, les restaurants ne sont pas dedans. Et quand vous prenez les chiffres Santé publique France, vous avez en un les EHPAD, ce ne sont pas des clients des restaurants, malheureusement, en tout cas pas des nôtres. Donc, voyez bien que c'est un sujet qui excite et attise, je dirais, des tensions, y compris auprès de l'ensemble de la population.
Est-ce que vous arrivez à vous projeter dans l'avenir ? Et si oui, avec quelle limite ou quel espoir, Stéphane Manigold ?
Mais vous savez, les Français, les chefs d'entreprise, ont le sentiment aujourd'hui d'être gouvernés par des gens qui ont fait les meilleures écoles, qui ont les meilleurs diplômes, et ce sont certainement les plus brillants. Mais le bon sens les a perdus. Et ce dont on a au fond ras-le-bol, c'est d'être pris pour des mômes. On nous parle comme des enfants. On infantilise la population française. Je vous le disais tout à l'heure, les Français, ils sont prêts à ce troisième confinement.
Excusez-moi, dès qu'on a eu un petit peu de relâchement, je l'ai vu moi-même dans les rues de Paris, il y avait des scènes absolument hallucinantes avec 200 personnes devant des bistrots, sans masque, tous en train de boire des bières. Vous comprenez bien que je ne peux pas l'appliquer à tout le monde, mais ne pas le dire serait malhonnête. Et on sait que ça fait. Alors là, pour le coup, on ancrait de la contamination à la chaîne, on le sait.
Mais si vous voulez, le problème, c'est que c'est ce que je venais de vous dire. On nous prend pour des enfants, donc potentiellement, on peut réagir comme des enfants. Lorsqu'on nous infantilise, bah, s'ils nous prennent pour des idiots, allons jusqu'au bout de l'exercice. Je crois que ce ras-le-bol des Français d'être pris pour des gamins, il est massif, il est puissant. Et il faut que nos gouvernements, nos politiques, en prennent conscience. Ils ont fait les meilleures écoles, ça, ils sont capables de le comprendre.
Vous demandez quoi ? Quelle est la mesure importante pour vous aujourd'hui ?
De la lisibilité, de la transparence pour l'ensemble des entreprises. Pourquoi ? Parce que
qu'est-ce que ça veut dire concrètement ?
Mais qu'ils nous disent aujourd'hui qu'ils vont confiner à telle date. Que nous, chefs d'entreprise, on puisse anticiper nos plannings, nos commandes de stock, qu'on ait de la visibilité. Vous savez, un chef d'entreprise, diriger, c'est prévoir. Oui. Nous avons Emmanuel Macron, qui est ancien banquier d'affaires. Il est quand même capable de comprendre ça. Et donc, tous les Français ont besoin de lisibilité. Le troisième confinement, il est acté. Les Français et les Françaises ont besoin de s'organiser pour leurs vacances au ski, pour la gestion de l'entreprise. Quelque chose de surréaliste que de demander cela. C'est juste du bon sens. Et quand vous voyez que les plus grandes entreprises, les mieux préparées, Brice Rocher, le groupe Yves Rocher, souffrent aujourd'hui de cette crise sanitaire, c'est bien qu'il y a un problème de gestion et de gouvernance de ce pays.
Dites-nous la vérité, le troisième confinement est acté, vient de nous dire Stéphane Manigold sur RTL. Je rappelle que vous êtes cofondateur et porte-parole du collectif Restons Ouverts. Bonne journée à vous.
Merci.
Bon travail et à bientôt, en tout cas on l'espère, pour la réouverture de nos restaurants. Car croyez-moi, vous nous manquez.
C'est un lien social.
Dans un instant, Louis Baudin pour la météo, les grosses têtes et notre pépite musicale avec Anthony Martin. Bonne journée à vous.
RTL Matin. Yves Calvi.
Il est 7h25, on retrouve tout de suite notre pépite musicale et surtout Anthony Martin.
Bonjour Yves, bonjour à tous. Alors on va sourire un peu avec une curiosité tirée du répertoire d'un de nos trésors nationaux, Alain Souchon. En 1976, Souchon avait déjà goûté au show business grâce au succès de sa chanson J'ai 10 ans. Il était assez dubitatif et mal à l'aise, c'est-à-dire que les stars, l'école paie la tarte, les paillettes, jouer les séducteurs aux côtés de Mike Brandt, tous ces rôles de composition, c'était pas du tout son monde. Et Souchon a décidé très vite d'annoncer la couleur dans un texte qui justement fait rimer composition à admiration et consternation. C'est la chanson Bidon, je suis bidon, devenue un immense succès. Et formidable paradoxe, Souchon s'est retrouvé propulsé parmi les stars,
ah oui,
chanteur très populaire et beaucoup plus à l'aise dans ce monde. Il m'avait confié que ce morceau lui avait rapporté d'un coup 600 000 francs. Et à l'époque, son producteur l'avait prié d'enregistrer une version anglaise de Bidon. Oula. Car si en plus ça prenait sur le marché anglo-saxon, vous imaginez le jackpot pour tout le monde. Ça n'a pas pris du tout.
Oh non.
Mais la version existe. Bidon est devenu I'm a joke, je suis une blague. C'est notre pépite du jour. Alain Souchon chante Bidon en anglais. She thought I once did my queen. She believed I could win on the honor of a green one. Admiration. Talked about racing sedans. Drifting turned at Le Mans. Uncontrollable fans on television. She said let me drive to L.A. You braxed on me 12 Chevrolet. She had to push all the way, oh consternation. My hands on my hips, a smile on my lips. I always forget to cut my bicycle clips. I'm a joke, I'm a joke. Give 10 bucket tips for burgers and chips. But I always forget to cut my bicycle clips. I'm a joke. I'm a joke, la version anglaise de Bidon par Souchon lui-même. Il est tout aussi attachant en anglais. C'est son ami américain David McNeil qui avait traduit les paroles. Elle est restée 20 ans dans un tiroir, cette version, on l'a découverte en 1996. Souchon a très tôt parlé anglais, hein. Son papa était prof d'anglais. Sa maman l'avait envoyé passer son bac à Londres. Il n'a jamais eu le bac. Il avait trouvé un petit boulot à la place des études. Il nettoyait les pompes à bière dans les pubs.
L'accent anglais, vous le trouvez au point, vous ?
Non, mais il a un côté souchonien et souchonesque dans son accent, voilà. Mais c'est fluide.
Il n'a pas beaucoup travaillé à Londres, à mon avis.
Ah non, il nettoyait les pompes à bière.
Merci infiniment, Anthony. On vous retrouve demain matin.
À demain.
Pour une pépite, c'en est une. Notre rendez-vous matinal avec les grosses têtes maintenant de Laurent Ruquier et ses révélations de Karine Le Marchand sur les coulisses de l'amour et dans le prêt.
qui faisait le portrait d'un agriculteur qui n'avait pas beaucoup de dents et qui me confie avoir un dentier. Je lui dis, écoute, bah, tu veux pas aller le mettre parce que c'est mieux quand même. Et il part et il fouille et en fait, il avait son micro. Et l'ingénieur du son vient me voir et me dit, écoute, c'est bizarre et on entend, mais ce que je vous dis est véridique, on entend des bruits qui font... Et il revient et je ne dis pas son prénom et il revient sans. Et je lui dis, bah, tu l'as pas trouvé? Il me dit, bah, j'en avais retrouvé un, mais c'était celui de ma mère qui est morte.
Oh, quelle horreur!
Mais je vous assure que c'est vrai.
Ah oui, bah, il va pas du tout se reconnaître.
C'est pas possible. Laurent Ruquier vous donne rendez-vous avec toute son équipe cet après-midi de 15h30 à 18h sur RTL et 24h sur 24 grâce à la radio 100% Grosse Tête disponible sur l'application mobile RTL. Bonjour cher Louis Baudin.
Bonjour.
Bon,
bonjour,
on est venu avec toutes nos dents et on va s'intéresser à notre météo qui est contrastée, un peu compliquée.
Et un peu humide aussi. Hein. Ouais. J'espère que vous avez pris vos tirées en partant ce matin parce qu'il va servir aujourd'hui. On a une perturbation qui est en train de progresser du nord vers le sud sur la France. Elle va envahir toutes les régions d'ici l'après-midi. Alors normalement ça donnera de la pluie, mais ce matin comme on a encore des gelées dans l'est, eh bien ça pourrait nous donner des pluies verglaçantes ou de la neige jusqu'en plaine. Alors Lorraine, Alsace, Franche-Comté, Bourgogne, Massif Central, région Rhône-Alpes, attention, dans toutes ces régions pendant une partie de la matinée ça peut glisser avec de la neige ou ces pluies verglaçantes. Alors cet après-midi cette perturbation qui s'étalera sur quasiment toutes les régions, hein, de l'Atlantique aux frontières de l'est, donnera bien de la pluie en plaine, mais de la neige en montagne où elle va tomber en abondance pour ajouter encore sur les Vosges, le Jura, les Alpes ou encore le Massif Central. Alors il n'y aura que l'extrême sud qui restera épargné avec un peu de soleil des Pyrénées à la Méditerranée avec du Mistral et de la Tramontane. Et puis les températures vont nettement remonter. Il y a encore de grosses gelées dans le sud, mais cet après-midi 5 à 6 degrés dans la moitié nord et dans le nord-est. Mais dans toutes les autres régions, c'est entre 7 et 10 degrés près de l'Atlantique ou encore dans le sud.
Merci Louis RTL, il est 7h30.
Matin, Yves Calvi.
7h30, le tout à fois avec Isabelle Choquet pour tout entendre de l'actualité de ce mardi 12 janvier. Bonjour Isabelle.
Bonjour Yves, bonjour à tous. C'est une publicité dans Deliveroo, ce serait sans doute bien passé. À Strasbourg, deux restaurateurs juifs portent plainte car un livreur a refusé de prendre leur commande. Ça s'est produit deux fois. David, l'un des deux restaurateurs, n'en revient toujours pas.
Mon frère vient choqué, regarde et il me dit « ça m'est jamais arrivé, mais il y a un livreur qui ne veut pas prendre notre commande parce qu'on est juif ». Alors il lui a demandé « Pourquoi tu livres pas pour nous ?» Il a dit « Je livre pas le cachère, je livre pas pour les juifs ». Et il est parti. Je ne laisserai pas passer. Cette personne, elle travaille pour une grosse boîte qui aurait dû s'assurer du recrutement. C'est-à-dire que moi, quand je prends quelqu'un à travailler chez moi, je prends pas quelqu'un qui va nous causer du tort. Voilà.
De fait, Deliveroo prend l'affaire au sérieux et assure que si les faits sont avérés, le livreur sera remercié. C'est ce que dit le porte-parole Damien Stéphan.
Deliveroo travaille en France avec 20 000 restaurants et on travaille avec à peu près 14 000 livreurs partenaires. Et on a justement voulu montrer, depuis cet incident survenu à Strasbourg, on a tenu à réagir de manière exemplaire pour montrer qu'on n'avait justement aucune tolérance. On a voulu là agir fermement.
Propos recueillis pour RTL par Yannick Collant.
Aux États-Unis, l'inquiétude grandit à l'approche de la cérémonie d'investiture de Joe Biden.
Oui, selon plusieurs médias américains, le FBI s'attend à des manifestations de supporters armés de Donald Trump. Manifestations dans les 50 États du pays, Lionel Gendron.
Oui, et la crainte du FBI, c'est que l'assaut de mercredi dernier ne soit que le début d'une vaste attaque coordonnée. Les enquêteurs ont intercepté des échanges inquiétants. Ils évoquent l'attaque du Capitole fédéral à Washington, mais aussi de chaque Capitole des 50 États. Des attaques armées qui débuteraient samedi jusqu'au 20 janvier, le jour de l'investiture de Joe Biden. Par ailleurs, les partisans jusqu'au boutistes de Donald Trump promettent des soulèvements si le 25e amendement est adopté, c'est-à-dire si le président est démis de ses fonctions par le gouvernement et le vice-président Mike Pence. Dans son rapport, le FBI évoque aussi des menaces envers Joe Biden et Kamala Harris. La maire de Washington demande aux Américains de ne pas se déplacer le 20 janvier. De leur côté, tous les États renforcent leur dispositif de sécurité.
Et pour la première fois depuis la violence au Capitole, Donald Trump et Mike Pence se sont parlé hier soir dans le bureau ovale. Visiblement, le vice-président n'invoquera pas le 25e amendement pour démettre le président de ses fonctions. Tout va donc se jouer au Congrès où un vote pourrait avoir lieu dès demain.
7h33, comme chaque semaine, on attend jeudi
les nouvelles mesures que doit annoncer Jean Castex?
Trois scénarios sont sur la table. Un couvre-feu dès 18h dans tout le pays, un couvre-feu assorti d'un confinement le week-end ou un reconfinement général. Pour Alexandre Mignon, c'est tout vu, il faut reconfiner vite et fort. Cet anesthésiste réanimateur à l'APHP est signataire d'une tribune publiée dans Le Monde par un collectif de médecins.
Un confinement assez rapide, assez strict. Au lieu d'attendre que la vague soit au maximum et qu'elle soit trop forte pour être contenue, on essaye de la bloquer quand c'est une vaguelette.
Alexandre Mignon, micro RTL de Sébastien Rouxel. Notez que plusieurs cas du variant britannique ont été signalés du côté de Cholet en Maine-et-Loire. Pendant ce temps, l'OMS signale l'apparition d'un nouveau variant du virus au Japon. L'OMS qui indique également qu'il ne faut pas compter sur une immunité collective en 2021. Et cela malgré les campagnes de vaccination massive. La vaccination précisément en France des plus de 75 ans doit commencer lundi prochain. La liste des centres proches de chez vous sera disponible sur santé.fr et la prise de rendez-vous pourra passer par les plateformes Doctolib, Keldoc ou Maya.
Est-ce un effet de l'isolement ? À Villeurbanne, un étudiant en droit a tenté de se suicider.
Le jeune homme s'est jeté du 5e étage de sa résidence universitaire. Il est hospitalisé entre la vie et la mort. Les motifs de son geste ne sont pas connus, mais le doyen évoque la fermeture des amphis qui fragilise les jeunes. Romain Narbonnet est lui aussi étudiant en droit à Lyon et sur Facebook, il a reçu des centaines de messages d'étudiants en détresse.
Je dois être à 100, 120 messages d'étudiants qui me disent qu'ils comprennent son acte et qu'ils ont déjà pensé mettre fin à sa vie alors qu'on a 20 ans.
C'est assez effrayant.
C'est très effrayant, mais malheureusement ça existe et il faut bien l'entendre. C'est de se dire que demain, si jamais nous avons le plaisir de pouvoir retrouver nos amphis, est-ce que nous allons retrouver notre camarade qui était à notre droite et à notre gauche ?
Cet étudiant lyonnais au micro-RTL de Frédéric Perruche. C'était il y a 2 ans, jour pour jour, une explosion au gaz rue de Trévise à Paris faisait 4 morts et des dizaines de blessés. 400 personnes avaient alors perdu leur logement. Aujourd'hui, la plupart des victimes attendent toujours d'être indemnisées et plus d'une centaine ont décidé d'assigner le distributeur de gaz GRDF pour obtenir réparation. Parmi elles, Améroche, qui travaillait dans les 2 hôtels soufflés par l'explosion. Il a 54 ans et aujourd'hui, il ne peut plus travailler.
On doit justifier pourquoi qu'on était dans la rue, pourquoi qu'on a passé 1 mois et demi à l'hôpital, pourquoi j'étais éventré, pourquoi j'ai perdu 3 mètres d'intestin, pourquoi j'ai été opéré de l'estomac, pourquoi je me suis cassé le bras. Ça fait déjà 3 expertises médicales que je passe, 80% handicapés, et c'est à moi de justifier à chaque fois pendant 2 ans pour qu'on puisse m'indemniser. Franchement, je pensais pas un jour en arriver là, quoi. Je suis en colère. L'enquête a duré 8 mois, un truc où il y avait tellement de témoins, tout le monde sait ce qui s'est passé. Les victimes, bah, on tourne en rond. Ah, moi, j'en ai marre.
Témoignage recueilli pour RTL par Juliette G. Le rugby rattrapé par l'épidémie de Covid et la crainte du nouveau variant britannique. Toutes les Coupes d'Europe sont suspendues au moins jusqu'à début février. Le tournoi des Six Nations qui devait débuter le 6 février est lui aussi menacé. Une réunion technique se tient ce matin au ministère des Sports. On termine en musique ?
Oui, avec les victoires.
Les victoires de la musique, c'est dans un mois. Et ce matin, le Figaro publie le classement des 20 meilleures ventes d'albums en 2020. Les grands vainqueurs de cette année, ce sont Vita et Slimane qui ont écoulé 417 000 exemplaires de leur album Versus. Avant toi, je n'avais rien. Avant toi. Et pour compléter le podium, 2 rappeurs, Ninho et Maes. Angèle est 4e, toujours grâce à son premier album Brawl. Et à la 5e place, on trouve Francis Cabrel. Et puisqu'on parlait des victoires, sachez que c'est Benjamin Biolay qui fait figure de favori avec son album Grand Prix, qui est déjà l'album RTL de l'année.
Mais oui, on se retrouve à 8h40 pour la face cachée de la Une.
Et je vous emmènerai dans un lieu très secret, l'Institut Rosenberg en Suisse, un pensionnat 5 étoiles pour les enfants de très très riches.
À tout à l'heure, Isabelle Choquet. Merci beaucoup. Il est 7h36. François Langlais, bonjour.
Bonjour Yves.
Vous profitez de la mise en place du nouvel arrêt de travail pour calculer le coût de l'absentéisme en France.
Oui, vous connaissez mon esprit pervers. Oui. Non, en 24 heures, 2500 Français ont déjà demandé ce nouvel arrêt de travail. Mais c'est vrai qu'il y a une vraie tradition en France, vous allez le voir, parce que dans le hit parade des pays qui utilisent le plus l'arrêt de travail, la France n'est pas mal classée.
A tout de suite.
A tout de suite.
RTL Matin, Yves Calvi.
7h39, Langlais Co avec vous, François Langlais.
Bonjour à tous.
2500 Français ont utilisé hier la nouvelle facilité pour établir soi-même, je le rappelle, son arrêt de travail.
Oui, ça avait été annoncé jeudi par Jean Castex et mis en place à compter d'hier. Grâce à ce nouveau dispositif, il est désormais possible de se décréter soi-même en arrêt maladie, sans passer par un médecin, en cas de suspicion de Covid ou bien si on est déclaré cas contact par l'assurance maladie. Un arrêt de travail indemnisé intégralement, 100 jours de carence, qui doit en principe être validé par un test positif au Covid, transmis à la CNAM au plus tard deux jours après. Et cela ne vaut que pour les emplois non télétravaillés. Bon, on comprend l'objectif, hein. Il s'agit d'éviter que les salariés, du privé comme du public, ne contaminent leur entourage professionnel dans l'attente de la visite à un médecin pour se faire arrêter. Mais le patronat, en particulier celui des PME, est un peu inquiet de ce système.
Il redoute des abus.
Oui, de fait, un salarié a la possibilité de se mettre en arrêt tout seul pour au moins 48 heures, sans contrôle et avec son salaire intégral, le temps de réaliser le test. Mmh. Et j'allais dire, il a aussi la possibilité de reproduire l'expérience régulièrement, s'il n'est pas contrôlé par la Sécu. D'accord. Une source potentielle d'abus, alors que le concept d'arrêt maladie a déjà connu une forme de dénaturation avec son extension à l'occasion de l'épidémie, puisque les parents ont pu, au printemps, quand les écoles étaient fermées, garder leurs enfants en étant indemnisés au titre de l'assurance maladie. Toujours sans l'intervention d'un médecin, bien sûr.
Les Français abusent-ils du congé maladie en général ? Est-ce qu'on a des notions ?
Écoutez, si on s'en tient à la moyenne, on est à 16 jours et demi par personne et par an. Ce qui nous place en Europe dans la partie haute du classement. Mais tout près de l'Allemagne, qui est à 15 jours et demi. À l'opposé, alors ça c'est très singulier, il y a les Anglais qui ne prennent que 5 jours et demi par an, 3 fois moins de congés maladie que chez nous.
Est-ce qu'on a des études et comment de telles différences s'expliquent-elles ?
Pas du tout par le fait que les Anglais sont moins malades, bien sûr. Hein, statistiquement, ils doivent connaître exactement les mêmes pathologies que nous, mais leur régime d'indemnisation est beaucoup moins favorable que le nôtre. Il est forfaitaire, 120 euros par semaine. Vous voyez que c'est pas grand-chose, ça fait 500 euros par mois pendant 28 semaines. Rien à voir avec chez nous, où c'est 100% du salaire après le ou les jours de carence. Le niveau et les conditions d'indemnisation sont donc déterminants dans la décision du salarié de demander ou pas un congé de maladie. Je dois dire qu'on l'observe aussi en France, hein, où il y a des différences très importantes entre la fonction publique territoriale, championne avec un taux d'absentéisme de 9,2%, c'est-à-dire près de deux fois celui du secteur privé, où les salariés sont beaucoup plus contrôlés par le management.
La bonne fonction publique territoriale. Est-ce qu'on a une idée du coût total que représente l'absentéisme en France ?
Oui, c'est l'Institut Sapiens qui s'est essayé à chiffrer ce coût aux environs de 100 milliards d'euros par an. Ça représente 4 points de croissance, hein, c'est évidemment considérable. Et alors, c'est un coût qui ne cesse de grimper depuis 50 ans, en proportion de la richesse nationale, bien sûr. À la fois pour une bonne raison, c'est l'amélioration de la prise en charge des maladies par notre État-providence, on ne peut que s'en féliciter. Et puis aussi une mauvaise, c'est la négligence qui prévaut justement, spécifiquement, dans les collectivités locales.
Merci beaucoup François Langlais, on vous retrouve bien entendu sur le site rtl.fr. Il est 7h42, bonjour Alba Ventura.
Bonjour Yves et bonjour à tous.
Votre invité ce matin.
Anne-Claude Crémieux, professeure en maladies infectieuses à l'hôpital Saint-Louis à Paris, membre de l'Académie de médecine. Je lui demanderai à quel point le variant anglais inquiète, comment faire pour ne pas en arriver à la situation de la Grande-Bretagne et est-ce que le reconfinement est la meilleure solution.
A tout de suite avec votre invité Anne-Claude Crémieux.
RTL Matin avec Yves Calvi.
7h45, excellente journée à vous tous qui écoutez RTL. Alba Ventura, vous recevez donc ce matin la professeure en maladies infectieuses de l'hôpital Saint-Louis à Paris, Anne-Claude Crémieux.
Bonjour Anne-Claude Crémieux. Et je rappelle le titre de votre ouvrage « Gouverner l'imprévisible » aux éditions Lavoisier. Il y a 10 mois pile à votre place, j'interrogeais l'ancien président du conseil italien Matteo Renzi. Le virus en Italie était hors de contrôle, il nous mettait en garde, il disait « Attention, dans quelques jours ce sera votre tour les Français ». On a l'impression, Anne-Claude Crémieux, de revivre la même chose avec cette fois un avertissement de la part de nos voisins anglais avec le virus mutant, c'est vrai ?
Oui, c'est vrai. Effectivement, vous avez raison de dire qu'on a, dans cette crise, parfois considéré que ce qui arrivait à nos voisins ne nous arriverait pas pour diverses raisons. Aujourd'hui, il faut se rendre à la raison. Ce qui arrive à l'Angleterre risque de nous arriver. Le problème, c'est pas si ça va nous arriver, mais quand ça va nous arriver.
Oui, parce que c'est pas risque, ça va nous arriver. On a peu de chances d'y échapper.
Ça va nous arriver. Peut-être a-t-on un peu plus de temps qu'eux, et là, il faut utiliser ce temps pour s'organiser, pour vacciner.
Mais à votre avis, on a combien de temps devant nous ?
On ne le saura que quand on aura un état des lieux précis, et on devrait l'avoir dans les jours qui viennent, quel est le taux de pénétration du virus sur le territoire français ? C'est la question fondamentale.
Mais on ne sait pas si c'est une semaine ou deux mois.
De deux choses l'une, soit nous sommes encore avec 1 à 2% de virus variants sur le territoire, on a un peu plus de temps, ça se compte en semaines, ça se compte pas en mois, soit on est déjà à 10 à 20% et il faut se préparer à vivre la situation anglaise dans les jours qui viennent.
Professeur Anne-Claude Crémieux, il vous fait peur ce virus, ce variant ?
Il m'incite à beaucoup, beaucoup de vigilance, de combativité. Oui, ce virus est dangereux. Ce variant diffuse extrêmement rapidement. Il est capable de mettre en tension extrême le système de santé. Il faut donc à la fois imaginez que s'il est présent de façon importante sur le territoire, on doit utiliser toutes les mesures de freinage qui sont à notre disposition et il faut au contraire accélérer la campagne vaccinale.
Il est dangereux parce qu'il va vite et on a compris qu'il était très contagieux. Est-ce qu'il est aussi dangereux parce que il pourrait faire des formes graves ? Est-ce que ça, on le sait déjà ou pas ?
Non, que sait-on sur ce vaccin ? On sait qu'il est plus transmissible aux environs de 50% plus transmissible que les souches antérieures. On sait qu'il n'est pas plus virulent, c'est-à-dire qu'il ne donne pas de forme plus sévère. Et ce qu'on attend de savoir de manière certaine, c'est qu'il n'a pas d'impact sur le vaccin. Voilà aussi une question importante dont on va avoir les résultats dans les jours qui viennent.
On ne sait pas encore donc si le vaccin qui protège du virus, j'allais dire Covid-19, oui, protège aussi du variant.
On a des résultats partiels qui sont plutôt rassurants, notamment sur cette mutation en position 501 qui est commune aux variants britanniques et aux variants sud-africains.
Redites-nous la position 501, qu'est-ce que 500. Ça veut dire ?
Ce virus a plusieurs mutations, notamment au niveau de la spike protéine. Ce sont celles qui sont les plus inquiétantes parce qu'elles peuvent diminuer l'efficacité du vaccin. Une de ces mutations a été étudiée, la mutation en position 501. Elle n'a pas d'impact sur le vaccin, c'est déjà une bonne nouvelle. On attend l'effet des autres mutations situées sur la spike protéine sur l'efficacité vaccinale.
On a des questions sur la dangerosité pour les enfants.
Alors ça, c'est plutôt, les dernières données sont plutôt rassurantes. Au début, nos collègues de l'Imperial College avaient dit que ce virus atteignait plus les tranches d'âge inférieures à 20 ans. Les dernières données de santé publique Angleterre, de début février, vous voyez que les choses évoluent très rapidement, montrent que la pyramide des âges de ce mutant est exactement la même que la pyramide des âges des virus antérieurs.
D'accord. Il va remplacer le Covid-19, ce mutant ?
C'est un Covid-19. Mutant va remplacer les souches qui sont actuellement circulantes.
Et est-ce qu'il peut encore varier ? Et est-ce que le Covid-19 peut aussi encore varier ?
Oui, je crois qu'il ne faut pas sous-estimer ce que cette histoire a d'alerte pour nous.
Mais c'est ça, enfin.
Au début, on disait que ce virus mutait peu. Qu'est-ce qu'on vient d'apprendre ? C'est qu'il est capable de muter et d'intégrer un grand nombre de mutations dans son génome à terme. Cela veut dire qu'il va continuer à muter. Et je crois qu'il faut se préparer à l'idée que les vaccins vont être obligés au fur et à mesure d'intégrer ces modifications.
Alors vous disiez qu'il faut accélérer la vaccination. Vous trouvez que la campagne est bien partie en France ou est-ce qu'il faut presser le pas ?
Elle n'est pas bien partie, mais ce qu'on espère, c'est qu'il va y avoir un rattrapage. On est capable de le faire. Nous avons les moyens d'avoir une campagne vaccinale au même niveau que ce qui se passe en Angleterre, où leur objectif, c'est 14 millions de vaccinations mi-février. On est capable de le faire. Il faut s'en donner les moyens.
Jusqu'ici, on nous a dit que les vaccins protégeaient, mais qu'ils n'empêchaient pas la transmission. Est-ce qu'au moins, ils limitent, Anne-Claude Crémieux, la transmission ?
Ouais, je pense qu'il faut... On a opposé, je dirais, pour des raisons un petit peu pédagogiques, ces deux aspects, mais on a des données expérimentales et même des données cliniques qui laissent penser que plus un vaccin est protecteur sur la maladie, et plus il peut limiter la transmission.
Vous vous êtes fait vacciner, vous ?
Je me suis fait vacciner lundi dernier.
Alors, on a compris en tout cas qu'il fallait tout faire pour ne pas arriver à la situation en Angleterre. On attend par ailleurs de connaître les effets de fêtes de fin d'année sur la circulation du Covid-19. Vous avez des indications ?
Alors c'est un peu passé effectivement en arrière de l'actualité parce que évidemment c'est moins la menace que le nouveau variant britannique. On sait qu'il y a un frémissement pour l'instant. Il s'est traduit en nombre de contaminations dès samedi et dimanche. Il commence à se traduire en nombre d'hospitalisations.
Est-ce qu'on a des indications qui vous semblent précises sur le relevé des eaux usées, notamment les relevés faits en Île-de-France ?
Alors, je pense que oui, il y a des indications qui vont dans le même sens.
Qui vont dans le même sens d'une augmentation.
Qui vont dans le même sens d'une augmentation.
Dans ce cas, Anne-Claude Crémieux, est-ce qu'on ressort l'artillerie lourde avec un reconfinement ou est-ce que le couvre-feu suffit ?
Encore une fois, avant de pouvoir décider, je pense qu'il faut avoir un bon diagnostic. Et aujourd'hui, le bon diagnostic, c'est de connaître le taux de pénétration du mutant anglais sur notre territoire. De ça, tout va dépendre.
Mais vous-même, vous dites qu'il faut une réponse rapide. Il faut maintenant une réponse ferme. Est-ce que vous avez vu cette tribune des médecins dans le journal Le Monde ? Ils disent qu'il y en a marre du stop and go, confinement, déconfinement, reconfinement, déconfinement.
C'est pourquoi je pense que là, cette semaine est absolument fondamentale. On va savoir si ce virus a déjà largement circulé sur le territoire ou si au contraire, on est à une phase de début. Et de ça va dépendre l'intensité des mesures de freinage que les autorités sanitaires vont être obligées de mettre en place. Ces médecins disent qu'il faut éviter les allers-retours. Pour éviter les allers-retours, il faut prendre une décision sur les bonnes données. On va les avoir dans les 48 heures.
Mais pour vous, un reconfinement, ça voudrait dire on ferme les écoles, on est tous en télétravail. Voudrait dire ça si toutefois on va vers cette décision-là ?
Les Anglais ont été débordés, ils se sont retrouvés avec une souche qui circulait de façon massive au moment où ils ont dû décider le niveau de leurs mesures de freinage. Ils n'avaient pas d'autre choix que d'opter pour la solution optimale, c'est-à-dire un confinement extrêmement strict et la fermeture des écoles. J'espère qu'on n'en est pas là. Les jours qui viennent vont nous le dire, mais on ne peut évidemment pas exclure que nous soyons confrontés à une situation très proche dans les jours qui viennent. Et à ce moment-là, les autorités sanitaires n'auront d'autre choix que d'appuyer sur le frein de manière maximale.
Vous aviez alerté, vous, sur la fermeture des frontières avec le Royaume-Uni ?
Alors, si effectivement on a encore assez peu de virus sur le territoire, ça devient essentiel pour freiner cette introduction, non seulement de dépister les personnes au départ, mais aussi de les mettre en quarantaine stricte à l'arrivée et de leur faire un test une semaine après. Là, on se doit de prendre toutes les précautions pour éviter que les virus traversent la Manche.
Professeur Anne-Claude Crébion, on a appris grâce à une étude américaine que les malades du Covid avaient une immunité d'au moins 8 mois. Oui. Est-ce qu'on peut dire qu'on a peu de chances de retomber malade quand on l'a déjà eu ?
Alors, on peut dire que dans les 8 mois, on a peu de chance. Il y a eu des bonnes nouvelles, effectivement, dans les mois qui ont précédé. Le vaccin et l'efficacité vaccinale atteint par les vaccins ARN messagers est quand même une excellente nouvelle. Je dirais que c'est pratiquement une révolution dans les maladies infectieuses. Le fait qu'on ait au moins une durée d'immunité de 8 mois est aussi une très bonne nouvelle. On voit quand même de la lumière au bout de ce tunnel.
Merci beaucoup, professeur Anne-Claude Crémieux.
Merci à vous.
Ce qui arrive en Angleterre va nous arriver, vient de nous dire Anne-Laure Crémieux. Pas de plus. Qu'ai-je dit ?
Anne-Laure, Anne-Claude.
Anne-Claude Crémieux, excusez-moi, madame. Le variant anglais n'est pas plus virulent mais plus transmissible et on espère qu'il n'aura pas d'incidence sur l'efficacité du vaccin. La seule solution est la vaccination, nous a dit Anne-Claude Crémieux, qui par ailleurs nous a confirmé avoir été vaccinée lundi dernier. Merci infiniment à l'une et à l'autre. L'intégralité de l'entretien est à retrouver comme chaque jour sur le site RTL.fr et Cyprien Sini surfe sur Marseille.
Absolument.
Dans un instant.
Spécificité marseillaise.
Oh bah bien entendu. Hein.
RTL Matin,
le surf de l'info.
Cyprien Signy.
Oui, et 7h58, vous surfez avec les déclarations de nos responsables politiques marseillais.
Eh oui, car vous le savez bien.
C'est pas la capitale, non, c'est Marseille bébé.
C'est Marseille bébé, ma ville adorée qui fait face à une situation critique et qui me fait dire que la deuxième adjointe Samia Ghali avait peut-être raison avant tous les chercheurs de France quand elle disait en octobre dernier.
Oui, il y a des spécificités. On n'a pas le même Covid à Marseille que ce qu'on a à Lyon, que ce qu'on a à Paris, ce qu'on a à Toulouse.
Eh oui, malheureusement, on a le mutant anglais maintenant à Marseille. Et ça, tout le monde s'en serait bien passé. Du coup, ça fait un peu monter la pression à la mairie, surtout que déjà...
Je pense qu'à un moment, les Marseillais, vous savez, ils en ont un peu ras-le-bol cet été. On a eu 30% de tourisme en plus et qui a provoqué la deuxième vague très forte sur Marseille, alors qu'on avait été épargné quand même sur la première vague.
Bah oui, voilà, la deuxième vague, hein, c'est la faute aux touristes. Et puis en plus...
Ils ont été plus que patients, les Marseillais. Depuis le mois d'août, on leur a demandé de ne plus vivre et ils ne vivent plus depuis le mois d'août.
Ouais, enfin, comme tout le reste de la France, en fait. Hein.
Non, non, les Marseillais, depuis le mois d'août, ne vivent pas comme les autres Français, c'est pas vrai.
Si, si, c'est vrai. Enfin bref, de toute façon, maintenant, il va falloir trouver une solution. Et heureusement que toute l'équipe municipale fraîchement élue est en ordre de marche, soudée comme jamais, ou pas. Hein, oui, c'est comment dire, particulier, voilà. Puisque vous avez la maire, qui est restée 6 mois, qui d'un coup retrouve la parole, maintenant qu'elle est première adjointe, Michel Rubirola, qui explique...
Pourquoi pas un reconfinement, un réel reconfinement. En tant que professionnel de santé, pourquoi pas reconfiner?
Il faut reconfiner. Alors que pendant ce temps-là, l'ancien premier adjoint qui est devenu maire à la place de la maire, vous suivez Benoît Payan, lui, quand vous lui parlez de confinement spécifique de Marseille, il répond
« Il ne s'agit pas de stigmatiser Marseille, il ne s'agit pas d'en rajouter. Ce genre de mesures sont très symboliques, n'ont en réalité pas beaucoup de sens. »
Il ne veut pas en entendre parler, ce qu'il veut, lui, c'est ça.
« Je demande au gouvernement d'être plus drastique dans la manière de contrôler, notamment les vols de l'espace Schengen. »
PCR pour tous ceux qui arrivent en France. Mais alors concernant celui qui a amené le variant anglais à Marseille, bah, il reconnaît en même temps...
La personne qui est entrée sur le territoire national, alors certes, elle avait un test qui lui disait qu'elle était négative, elle devait être en phase d'incubation.
Voilà, donc hein, en même temps, c'est pas forcément efficace, mais bon, de toute façon, il en est sûr.
C'est le vaccin qui nous sortira du virus. C'est le vaccin qui nous sauvera du virus, et pas autre chose.
Le vaccin, le vaccin, le vaccin, et pendant ce temps-là, sa deuxième adjointe, Samia Ghali, explique...
Ben, j'ai dit que je ne me ferais pas vacciner, je l'ai dit, j'ai pas changé d'avis encore aujourd'hui.
Une belle union, donc, hein, en attendant, avec vos gymnases et autres salles des fêtes pour vacciner, vous pouvez bien aller vous rhabiller puisque nous, à Marseille, on a...
Nous allons mettre à disposition des Marseillaises et des Marseillais le stade Vélodrome.
Bim ! Le Vélodrome en vaccinodrome, si ça, c'est pas une bonne raison pour se faire vacciner. Bon, et bon courage surtout.
Allez, rendez-vous à la Saint-Raoult. RTL, il est 8h.
RTL Matin, Yves Calvi.
Le journal avec Jérôme Florin. Bonjour Jérôme.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
À la une, les premières informations concrètes pour se faire vacciner.
Les inscriptions commencent jeudi, les détails dans ce journal. Dans l'actualité également, le grand malaise étudiant, ce numéro d'écoute croule sous les appels.
Il y a des appels suicidaires. Tous les appels sont liés à la crise sanitaire. Tout ce qui est solitude, problèmes relationnels, bah, ça change tout.
Et puis la chaîne britannique Marks & Spencer, victime du Brexit en France, les rayons se vident.
RTL Matin.
Mais tout d'abord, si vous vous êtes heurté aux méandres et parfois aux absurdités de l'administration française, estimez-vous heureux, car vous n'avez sans doute pas vécu le calvaire de cette ancienne chef d'entreprise qui se bat depuis 3 ans. Pourquoi ? Eh bien pour prouver qu'elle est en vie. C'est une histoire à dormir debout que veut nous raconter Thomas Proutot.
Oui, depuis 3 ans, Jeanne Pouchin vit un cauchemar éveillé. Après la décision de justice qui l'a considérée par erreur comme décédée, l'administration l'a peu à peu rayée de ses tablettes.
Je n'ai plus de pièce d'identité, je ne peux plus la faire refaire. Je n'ai plus de carte de sécurité sociale, donc automatiquement plus de mutuelle. Il y a un croisement de fichiers qui s'est fait et qui a détruit ma vie. Jamais j'aurais pensé vivre mon après-mort.
À l'origine du calvaire de l'ancienne chef d'entreprise, un conflit juridique vieux de 20 ans avec une de ses anciennes salariées. Lors d'une audience en 2017, celle-ci a déclaré morte son ancienne patronne dont elle n'avait plus de nouvelles. La cour d'appel a validé, sans vérifier. Annuler la décision est aujourd'hui possible, mais le combat de Jeanne dure depuis des mois.
J'ai passé le cap de la colère, de la haine. J'ai compris que seule la justice pouvait me remettre en vie. Je suis pieds et mains liés avec la justice et j'attends que je ne peux pas faire autrement.
Soutenue par son mari et son fils, Jeanne s'accroche comme elle peut. Pendant les 2 confinements, elle n'a pas osé sortir de chez elle une seule fois de peur d'un contrôle d'identité.
Une histoire de fou. Hein.
On attend que Jeanne Pouchin puisse ressusciter. Donc.
Exactement. Thomas Proutot.
RTL, il est 8h02. La campagne de vaccination en France franchira une nouvelle étape dans quelques jours.
Dès la semaine prochaine, les plus de 75 ans non-résidents en EHPAD pourront à leur tour recevoir une injection. On pourra prendre rendez-vous dès jeudi et vous nous expliquez, Sophie Orange, bonjour.
Bonjour.
Vous nous expliquez comment ça va se passer concrètement. D'abord,
on se connecte sur santé.fr, le site, pour avoir le nom du centre près de chez soi. Et ensuite ?
Eh bien, le gouvernement a choisi trois plateformes bien connues du grand public. Doctolib, 42 millions de Français ont un compte, mais aussi Maya et Keldoc. Vous vous connectez, donc vous choisissez un créneau, exactement comme quand vous prenez rendez-vous chez le médecin. Ces sites travaillent depuis des semaines pour mettre en place le dispositif et se mettre en relation avec tous les centres qui ouvrent peu à peu. Ils promettent qu'il n'y aura pas d'embouteillage sur Internet. Les 5 millions de personnes de plus de 75 ans ne vont pas se connecter toutes à la même minute. Vous recevrez ensuite des SMS ou des mails de rappel pour ne pas oublier le jour et l'heure. Certains établissements hospitaliers, certains centres proposent la prise de rendez-vous directement sur leur site Internet. Un numéro de téléphone sera également mis en place dès cette semaine.
Est-ce que je suis sûr qu'il y aura assez de doses le jour de mon rendez-vous ?
Oui, car c'est le centre qui choisit le nombre de créneaux ouverts en fonction du nombre de doses dans leur stock. Si vous vous déplacez, vous serez donc sûr d'être vacciné. Il y aura peut-être des semaines avec beaucoup de rendez-vous possibles, puis moins la semaine d'après ou inversement. Et dans tous les cas, de plus en plus de centres ouverts, 600 d'ici la fin du mois. Et n'oubliez pas de prendre rendez-vous pour la deuxième dose, au minimum 3 semaines plus tard.
Merci Sophie Orange. Plus de 138 000 personnes ont été vaccinées à ce jour en France, d'après les premiers chiffres officiels publiés hier soir. Quelle immunité lorsqu'on a été touché par le virus ? Des chercheurs américains l'estiment à 8 mois. Ils publient leurs conclusions dans la revue Science. C'est une bonne nouvelle. Au début de l'épidémie, les médecins évaluaient cette durée à 3 ou 4 mois. Mais, car il y a un mais, ce qui inquiète, c'est le variant du virus, les variants qui pourraient, s'ils sont trop nombreux, perturber la mémoire immunitaire. Le variant britannique, justement, nouveau cas signalé en France, près de Cholet, dans le Maine-et-Loire. Plusieurs membres d'une même famille ont été contaminés pendant les fêtes, après la visite de proches venus d'Angleterre. L'un des grands-parents a même dû être hospitalisé.
RTL 8h04, un étudiant de Villeurbanne toujours hospitalisé.
Son pronostic vital est engagé. Le jeune homme s'est jeté samedi du 5e étage de sa résidence universitaire. Si on ne connaît pas le motif de ce geste désespéré, beaucoup autour de lui évoquent l'isolement dans lequel sont plongés beaucoup d'étudiants. Depuis la crise, les amphis sont fermés, difficile souvent de travailler seul, comme le montre ce reportage de Valentin Boisset.
Elisa suit ses cours de médecine depuis mars sur son ordinateur.
Il y a un moment donné, j'avais l'impression d'être déscolarisée. Pour moi, il n'y avait plus rien. On fait les mêmes journées.
10 mois devant un bureau à étudier des fiches d'anatomie sans mettre les pieds à l'université de Paris. Elle est retournée vivre chez ses parents en Seine-et-Marne avec aujourd'hui une vie sociale et étudiante au point mort.
On voit personne quasiment. On discute parfois par message, mais c'est tellement pas la même chose. Une fois qu'on a éteint le message, il n'y a plus personne autour de nous.
On peut parler de solitude ou...
Un petit peu quand même. On sait qu'il y a des gens autour, mais on n'a pas le... On ne peut pas s'en rendre compte.
Ces étudiants, l'association Nightline tente de les écouter au téléphone.
Nightline, bonsoir.
Un numéro gratuit pour rompre la solitude chaque soir dès 21h. Florian Tirana est le président de l'association.
Les appels ont doublé. Tous les appels sont liés à la crise sanitaire. Tout ce qui est solitude, problèmes relationnels, ça change tout. Il y a des appels en suicidaire.
C'est-à-dire qu'ils appellent en disant...
Ouais, ça peut être au fur et à mesure de la conversation où les mots sortent. L'envie d'en finir, ce genre de choses.
L'organisme envisage désormais de doubler son nombre de bénévoles prochainement pour répondre à la demande grandissante.
Reportage signé Valentin Boisset. La crise qui perturbe la production d'électricité en France et qui pèse donc sur les prix. Les tarifs réglementés devraient augmenter de 1,7% en février, mais ce genre de hausse n'a pas attendu le coronavirus. Au total, ces 10 dernières années, les tarifs de l'électricité en France ont augmenté de 50%.
Autre hausse, celle des tarifs bancaires.
Plus forte hausse depuis 2017. En tête, les frais de tenue de compte, comme on dit Laure Prena et la directrice générale de Panora Bank.
Les frais de tenue de compte vont augmenter de 4,6%. Historiquement, ce sont des frais qui sont apparus vers 2013 et qui ont triplé en 5 ans, qui ont ensuite continué à progresser chaque année, sauf en 2019 où il y a eu le gel des tarifs bancaires, souvenez-vous. Et donc cette année, c'est encore un des frais qui augmente le plus et vous ne pouvez rien faire contre cela.
Propos recueillis par Armel Lévy. Attention, si vous circulez dans l'Est, Samuel Goldschmidt nous signale qu'en raison des pluies verglaçantes en Haute-Marne et sur la Lorraine en ce moment, l'autoroute A31 Nancy-Dijon est fermée dans les deux sens dans sa traversée du département des Vosges. Il y a beaucoup d'accidents et plusieurs poids lourds en difficulté.
Oui, Baudin, on observe notamment des pluies glaçantes.
Exactement, des pluies verglaçantes, on disait, tout au long de la matinée. De quasiment la Bourgogne jusque Lorraine, Alsace, Franche-Comté, sur le Massif central également. Prudence tout au long de la matinée avec ces pluies ou ces neiges et qui peuvent être dangereuses.
Et nous ferons un point complet à la fin du journal. Des rayons vides chez Marks & Spencer, la faute au Brexit, les clients se désespèrent.
Tous les étagères sont vides, tout ce qui est produits frais, tous les étagères sont vides, donc il n'y a plus rien.
Reportage à suivre dans un instant, il est 8h07, merci d'écouter RTL.
RTL. RTL Matin.
RTL 8h09, la suite du journal de Jérôme Florin. Au Royaume-Uni, le gouvernement estime à 250 000 le nombre de PME qui pourraient mettre la clé sous la porte cette année.
Ce sont les effets conjugués de la pandémie et du Brexit. Le Brexit qui s'applique concrètement depuis 12 jours maintenant. Et les magasins Marks & Spencer en France, qui dépendent des livraisons venues de l'autre côté de la Manche, souffrent aussi, comme vous l'avez constaté dans ce magasin parisien, Alexandre de Saint-Aignan.
Oui, quelques bouteilles se battent en duel dans des meubles réfrigérés déserts. Laurent, un Britannique qui vit à Paris depuis 15 ans, a l'impression d'arriver après la bataille.
Tous les produits indiens, toutes les étagères sont vides, tout ce qui est produits frais, toutes les étagères sont vides. Donc, les chips, salt and vinegar, ça, il en restait, mais bon, les produits faits, il n'y a plus rien.
L'approvisionnement de ce magasin Marks & Spencer est très perturbé à cause du Brexit. Il faut faire des nouvelles déclarations à la douane. Résultat, impossible de mettre la dent sur un sandwich. À l'heure de la pause déjeuner, les clients sortent les mains dans les poches.
Là, on voit les impacts directs, là, du coup, sur le magasin. C'est plusieurs rayons, vides, quoi. Pas de choix.
À la place des produits, des affichettes, veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée. Angélie est née à Londres, c'est une cliente fidèle.
On avait fait des stocks avant, en novembre. En décembre, on savait très bien que le 31, c'était fini.
Elle en est certaine, la situation ne va pas durer bien longtemps.
Non, parce qu'ils ont fait ça plusieurs fois. Arrêter les magasins, fermer tout. Et puis, ils sont revenus. Ça va prendre son temps, mais ça va revenir, je suis sûr.
Les vendeurs assurent qu'ils seront réapprovisionnés dans les prochains jours. C'est déjà ce qu'il disait la semaine dernière.
Alexandre de Saint-Aignan. Aux États-Unis, Donald Trump et son vice-président Mike Pence enterrent l'âge de guerre. Ils se sont vus dans le bureau ovale. Ils ne s'étaient pas parlé depuis mercredi, depuis que Pence avait refusé d'invalider l'élection de Joe Biden. Mike Pence ne déclenchera pas le 25e amendement qui permet de destituer le président. La démarche est désormais dans le camp des démocrates. Et puis la manifestation des pro-Trump devant le siège de Twitter à San Francisco a fait un flop. Seule une poignée d'entre eux a répondu présent. Des appels à se rassemblés avaient été lancés ce week-end depuis que Twitter a décidé de fermer le compte de Donald Trump.
Le rugby, très affecté par le coronavirus, n'est pas au bout de ses peines.
Le variant anglais perturbe les compétitions. Les Coupes d'Europe sont sur pause, au moins jusqu'à début février. Et le tournoi des Six Nations, qui doit s'ouvrir dans moins d'un mois, a visiblement du plomb dans l'aile, Jean-Michel Rascol.
Oui, peut-être pas de déplacement à Rome pour le 15 de France le 6 février, ni d'Angleterre-Écosse, les deux pays les plus touchés pour le moment par le variant anglais. Ouvrait le tournoi ce même jour à Twickenham. Une priorité pour l'organisateur, le comité destination, assurer les 110 millions de recettes de droits télé si importants pour les fédérations. En coulisses, plusieurs propositions sont étudiées. La plus insolite consisterait à déplacer le plus vieux tournoi du monde à Dubaï. La plus raisonnable renverrait la compétition fin juin pour un feuilleton estival inédit qui remplacerait la tournée que les Lions britanniques doivent effectuer en Afrique du Sud et celle en Australie qui figure déjà au programme du 15 de France. Là aussi, les finances des fédérations seraient impactées. Voilà pourquoi la position du comité destination est ce matin de ne rien modifier et d'imaginer plutôt une bulle sanitaire encore plus stricte autour des équipes. Un huis clos total, probablement déjà jugé insuffisant par les gouvernements.
Jean-Michel Rascol.
Voilà, je ne vous explique pas ce qu'est une mêlée en temps de coronavirus. Mmh. C'était le journal de Jérôme Florin. Louis Baudin, notre point météo.
Oui, avec de la pluie quasiment partout aujourd'hui, à un moment ou à un autre. Cet après-midi, ça recouvrira toute la France. Et puis ce matin, attention, on l'avait entendu dans le journal, il faut se méfier de ces pluies verglaçantes, ces neiges sur le Massif central, la Bourgogne, la Lorraine, une partie des Ardennes, sur l'Alsace également, la Franche-Comté, où on peut avoir des chaussées très glissantes avec ces pluies ou ces neiges qui vont tomber. Cet après-midi, ça sera de la neige en montagne, de la pluie en plaine. Sauf tout près de la Méditerranée, où avec l'aide du Mistral et de la Tramontane, ça sera un petit peu plus dégagé. Les températures en nette hausse cet après-midi. 5 à 6 degrés encore dans le nord-est, mais 7 à 11 degrés dans toutes les autres régions.
Merci beaucoup Louis Baudin, il est 8h13.
Yves Calvi, RTL Matin, 7h-9h30.
Et on va donc regarder ce qui se passe du côté des fausses informations avec vous, Jean-Mathieu Pernin. Bonjour.
Bonjour.
Aujourd'hui, on part à Monaco. La principauté est devenue l'objet de nombreux fantasmes concernant l'épidémie de Covid. On regarde ça de très près.
Et oui, toujours, bien sûr. Alors à Monaco, Yves, la vie est belle. Tranquille, lit-on sur les réseaux sociaux. En France, vous avez le Covid. Ici, on mange des pizzas en terrasse, explique un internaute monégasque, photo à la pluie. Alors, on a l'impression que c'est dans un pays très loin, coupé du reste du monde. Mais Monaco, c'est en fait juste après la station-service Total du Cap d'Ail, finalement. Il n'y a pas de barrière magique anti-coronavirus dans la principauté. Depuis le début de l'année, Le Rocher doit faire face à une recrudescence des cas. Alors, à son niveau de démographie, bien sûr. La semaine dernière, un record de 40 nouveaux cas de Covid-19 et un taux d'incidence de 392 cas positifs pour 100 000 habitants. À ce jour, 26 personnes y sont hospitalisées, dont 9 en réanimation. Au total, depuis le début de l'épidémie, plus d'un millier de personnes ont été touchées par le coronavirus à Monaco. Lundi, eh bien, une sixième personne est décédée pour un territoire qui en compte environ 38 000 d'habitants. Donc non, Monaco n'est pas épargné par le virus.
Alors certains affirment que Monaco est responsable de la diffusion du virus dans les Alpes-Maritimes.
Et oui, alors ça, ce sont les propos du maire de Nice ont tendu les relations de voisinage dans le sud-est. Le 6 janvier, dans le journal Libération, le maire de Nice, Christian Estrosi, affirme « Vous avez à 20 km de Nice un état dont les commerces et les restaurants sont ouverts et les gens se disent « Ah ben on va aller prendre du bon temps ». Et c'est vrai qu'en octobre, Le Rocher n'avait pas mis en place de confinement pour les fêtes. De nombreux Français s'y sont rendus car les restrictions étaient moindres, les restaurants étaient ouverts jusqu'à 22h30 à condition d'avoir une réservation d'hôtel. Alors selon France 3 Provençal-Côte d'Azur, dans certains établissements, les réservations par des Français ont augmenté de 12% par rapport à l'année dernière. Le gouvernement monégasque s'offusque de telles accusations et depuis le 2 janvier, puis avec des nouvelles mesures mises en place hier, a resserré la vis. Restaurant pour déjeuner seulement ouvert aux résidents. Couvre-feu à 19h et régulation de l'accès au rocher comme samedi pour éviter le brassage de population au moment des soldes.
Bon, moi j'irais plutôt faire un petit marché à Vintimille, mais c'est une autre histoire. Voilà, dernière rumeur, Monaco utilise l'hydroxychloroquine.
Forcément, ça faisait longtemps, d'ailleurs on n'avait pas utilisé ce mot dans cette chronique. Le médicament miracle, qui ne l'est pas, devrait se greffer sur cette affaire monégasque. La principauté a bien permis son usage au début de la première vague, mais fut interdit à partir du 29 mai, comme l'explique Nice Matin. Ce n'est pas ce traitement qui explique le faible taux de décès, mais plutôt un petit nombre d'habitants qui permet un respect plus large des consignes sanitaires. Le 19 mars 2020, il faut se rappeler, Albert II a été le premier chef d'État contaminé par le Covid. Le coronavirus aura même rendu Monaco ordinaire.
Jean-Mathieu Pernin.
RTL Matin. Yves Calvi.
RTL, il est 8h16, on retrouve notre brigade de l'actualité cet après-midi. Les députés vont donc examiner en première lecture une proposition de loi centriste visant à réduire l'empreinte environnementale du numérique en France. Bonjour Sophie Josselin.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
L'impact environnemental du numérique en chiffres, ça représente quoi ?
Eh bien, selon un récent rapport sénatorial, en France, le numérique, ça représente 2% des émissions de gaz à effet de serre. Mais vu l'explosion des usages, ça devrait être 7% en 2040. Et pour comparaison, l'avion aujourd'hui est responsable de 5% des émissions de CO2.
Est-ce qu'on sait ce qui est le plus néfaste pour la planète ?
Oui, et sans hésitation, c'est la fabrication des équipements. Elle pèse pour 70% dans notre facture numérique, mais une grande partie de cet impact environnemental est supportée par les pays qui fabriquent nos appareils. L'extraction des matières premières, l'assemblage, les transports, ça nécessite de l'énergie et en grande majorité, on utilise des énergies fossiles.
Les usages sont loin d'être neutres, hein ?
Oui, absolument. Les réseaux, les antennes, les data centers, ces fermes d'ordinateurs comme celles de Google, d'Amazon, où sont stockées et où transitent nos données, tout cela, ça consomme de l'énergie, ça émet des gaz à effet de serre. Rien que les centres de stockage de données représentent 17% de ces émissions.
On peut agir, Sophie ?
Oui, bien sûr. D'abord en changeant moins souvent de smartphone. En France, on change tous les 23 mois. Il faudrait davantage recycler, réparer et aussi changer nos habitudes. Par exemple, télécharger une vidéo plutôt que de la regarder en streaming et la télécharger en Wi-Fi et pas en 4G, car la 4G consomme 23 fois plus que le Wi-Fi sur un petit écran, celui de votre smartphone. Ça ne sert à rien de regarder une vidéo en haute définition. Ce sera bien mieux. Ce sera pareil en basse définition. Vous pouvez aussi bloquer la lecture automatique des vidéos sur les réseaux sociaux qui vous incitent à regarder toujours plus.
La 5G arrive, Sophie, ça ne va pas arranger les choses, non ?
Non, un rapport du Haut Conseil pour le Climat prévoit un accroissement des émissions de gaz à effet de serre dues au numérique à cause surtout du renouvellement du parc de smartphones, puisqu'il faudra un appareil compatible 5G. Comme les débits seront plus élevés, ce sera une invitation à consommer encore plus de data. Mais on peut faire aussi le pari que la 5G va développer de nouveaux usages, comme les visioconférences ou la maintenance à distance des sites industriels qui permettront peut-être de redire le transport et ça, c'est bon pour la planète.
Merci beaucoup Sophie Josselin. Dans un instant, notre consultation quotidienne avec Michel Simès. Il va nous aider à ne choisir qu'une seule mais très bonne résolution ce début d'année, prendre soin de son microbiote intestinal. Explication dans un instant.
RTL Matin. Ça va beaucoup mieux avec Michel Simès.
Bonjour Michel.
Bonjour Yves.
Ce matin, vous vous penchez sur notre alimentation et vous vous proposez d'accompagner ceux qui veulent changer de régime alimentaire.
Oui, et ce faisant, je m'intéresse à votre flore digestive, plus communément appelée microbiote. Alors, il faut savoir que nous disposons de quelques 100 000 milliards de bonnes bactéries qui interviennent dans notre processus de digestion et protègent notre système sanguin de l'intrusion de microbes. Elles contribuent, ces bactéries, à doper notre système immunitaire et à éloigner la menace que constituent les maladies chroniques comme le diabète, l'obésité, le stress ou les allergies. Mais encore faut-il, pour que tout ça soit efficace, ne pas manger n'importe quoi.
Alors, vous nous dites souvent de fuir la malbouffe en général et les produits alimentaires transformés en particulier. À l'inverse, je dis bien à l'inverse, existe-t-il des aliments connus pour être de meilleurs alliés de notre microbiote?
Alors, il y en a une flopée, je vais vous énumérer les principaux. La choucroute, les laits fermentés, l'avoine, qui est soit dit en passant la céréale qui contient le plus de fibres utiles aux bonnes bactéries, les herbes et les épices en général, et pour finir, la chicorée. Cette liste n'est évidemment pas exhaustive, on pourrait y ajouter l'artichaut, la banane, la rhubarbe. J'insiste sur ces aliments parce qu'on ne pense pas assez souvent à eux. Mais la question qui m'importe, c'est la suivante. À partir du moment où vous décidez à changer de régime alimentaire, il faut éviter de le faire trop brusquement. Sinon, vous risquez de ne pas supporter, de revenir rapidement aux mauvaises habitudes.
Comment s'y prendre si notre organisme n'aime pas en fait la nouveauté?
Eh ben, c'est comme pour tout le reste, hein. Il faut s'habituer. Et pour ce faire, il faut y aller progressivement. Si vous décidez de privilégier les aliments céréaliers complets, hein, qui sont riches en fibres, ben, n'en faites pas tout de suite une religion. Ah. Ne misez que sur un seul aliment complet. Quand votre organisme y sera habitué, ben, vous en introduisez un deuxième. Et puis un troisième, si ça prend 15 jours à chaque fois, c'est pas grave. Par ailleurs, si votre intestin vous semble facilement irritable, soyez charitable, donnez-lui des céréales à fibres douces, comme l'avoine, l'orge, le seigle ou le sarrasin, plutôt que du boulgour, de l'épeautre ou des pâtes au blé entier. Dernière chose, quoi que vous mangiez, prenez le temps de le faire. On ne fait pas un repas digne de ce nom en moins de 20 minutes, donc prenez le temps de mastiquer jusqu'à transformer en bouillie ce que vous avalez. Ça vaut pour tous et tout le temps, mais encore plus quand vous changez de régime alimentaire.
Merci de vos conseils, docteur. 8h22, c'est un livre et un invité qui va vous faire beaucoup de bien en cette période de restrictions et d'interdictions en matière sanitaire. Arrêtez de vous priver. Le professeur David Kayat publie cet ouvrage chez Albin Michel. Il va nous expliquer comment mener une vie agréable et pondérée dans quelques instants. A tout de suite sur RTL.
RTL. 7h, 9h30, RTL Matin. Avec Yves Calvi.
8h24, bonjour professeur David.
Bonjour.
Kayat. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Nous vous connaissons comme célèbre oncologue. Vous avez présidé, je le rappelle, l'INCa, l'Institut National contre le Cancer. Et vous venez de publier un tout nouveau livre intitulé « Arrêtez de vous priver » aux éditions Albin Michel. Alors, ce titre peut surprendre de par un professeur de médecine qui nous a souvent donné des conseils. Qu'est-ce qui vous prend? Vous avez envie de nous remonter le moral? Dites-moi la vérité.
Bah, écoutez, indirectement oui, parce que d'abord moi aussi je suis touché par le Covid et mon moral commence à être atteint, mais c'est pas ça, c'est que on est entouré de les gens n'arrêtent pas de nous faire peur, de nous dire qu'il y a des dangers, c'est dangereux de manger du sucre, du salé, du gras, de la viande, de la charcuterie, c'est du vin, il faut pas aller au soleil, il faut pas, il y a des dangers partout. Et c'est complètement aberrant parce que quand on vous parle de tous ces dangers, on vous parle pas du risque. Et il y a une différence énorme entre le danger et le risque.
Quelle est la différence entre un danger et un risque?
Je vous donne un exemple très simple. Les grands requins blancs, là, c'est très dangereux. Or, ils sont où? Dans la mer. Donc, aller dans la mer, c'est dangereux. Mais est-ce que c'est risqué? Mais pas du tout, parce que la probabilité que vous rencontriez un grand requin blanc en vous baignant, elle est nulle.
On s'est laissé inhiber par les prescriptions, c'est ça, permanente,
moralisatrice, par tous ces gens qui parlent sur le net, alors ils vous parlent, voilà, la charcuterie, si vous mangez 3 jambons beurre par semaine, ça augmente de 18% votre risque de cancer du côlon. Mais c'est aberrant. Si vous demandez aux gens, ça veut dire quoi? Ils vous disent, ça veut dire que si je mange 6 sandwichs, c'est-à-dire un tous les jours, mon risque il est 36%.
Ah bah vous avez une tête de chapitre qui est dans le cochon, tout est bon. Alors
c'est une façon de parler, c'est les titres, mais non, mais ce que ça veut dire, c'est que c'est une augmentation de votre risque de 18%. Mais quel est le risque de base? Si vous prenez 100 et que vous l'augmentez de 18, ça fait 118, c'est beaucoup. Or, le risque de cancer du côlon, c'est 2%. Donc, si vous l'augmentez de 18%, ça va faire 2,1. 2,18, c'est rien. Donc, si ça vous fait plaisir, allez-y, quoi.
David Kayat, nous sommes dans une société moralisatrice.
Exact, c'est hygiéniste.
Et hygiéniste. Alors, l'hygiène, ça fait quand même du bien, parce que oui. S'il y a une chose qu'on aura appris avec le Covid, c'est qu'enfin, on se lave les mains et qu'en gros, la France, malgré elle, est en train de devenir un peu plus propre.
Oui. C'est vrai.
Vous le constatez.
Bon, on a été un des plus faibles utilisateurs de savon dans l'histoire de l'Europe. Bon. C'est bien.
Est-ce que vous n'êtes pas excessif dans votre désir de déculpabilisation? Est-ce que vous ne craignez pas d'être incompris ou mal compris?
prix.
Ah oui, bien sûr, je le crains, parce qu'il y aura toujours des gens, notamment tous ces gourous hygiénistes, qui vont dire « ouais, hein ». Mais en fait, je pense qu'il faut défendre la vie. La vie, c'est pas d'être se sentir coupable tous les matins, parce qu'on vous a dit « il faut surtout pas manger des frites », et qu'à un moment donné, vous avez cédé, vous avez mangé une portion de frites, et après, vous êtes malheureux. Non, la vie, c'est de profiter de la vie, avec ses petits excès, avec ce que l'on est, parce qu'on n'est pas tous pareils. Par exemple, quand on parlait du risque des requins, oui. Bien sûr que si vous vous baignez dans la grande barrière de corail en Australie, là, le risque, il devient élevé. Mais si vous baignez à Nice ou à Marseille, le risque, il est nul. On n'est pas tous pareils. Donc, il faut individualiser cette notion de danger, de risque, et donc, arrêter de se culpabiliser, ça fait du mal.
Est-ce qu'il y a des domaines où néanmoins il faut rester strict? Je pense par exemple au tabac.
Ah oui. Alors là,
dites-le parce que vous ne nous direz pas 3 cigarettes par jour.
Jamais, zéro cigarette. Dites-le. Vous savez très bien que j'ai été un des plus grands acteurs de la lutte contre le tabac.
C'est pour ça.
À l'époque de Chirac, et je reste un fervent quelqu'un réellement impliqué dans la lutte contre le tabac. Mais bon, où on en est avec le tabac? Il y a 20 ans, la première cause de mortalité dans le monde, c'était le tabac. Il y a 2 ans, la première cause de mortalité, c'était toujours le tabac. Ça veut dire que toutes les politiques qu'on a mises en œuvre, y compris celles auxquelles j'ai participé, ont échoué. Il y a toujours aujourd'hui un milliard de fumeurs dans le monde. Alors, plutôt que de dire c'est une question de volonté, non, ça n'est pas une question de volonté, c'est une addiction et il y a des gens qui n'arrivent pas à arrêter. Donc, il faut les aider, les soigner. Et là, il y a des tas de moyens de ne plus fumer des cigarettes, mais vous avez la cigarette électronique, par exemple. Vous avez le snus. En Suède, le snus, c'est-à-dire un petit patch qu'on met sous la gencive, oui, qui donne de la nicotine, grâce à ça, il n'y a plus que 5% de fumeurs. Nous, on est à presque 30% de fumeurs. Hein. Donc là, ils y sont arrivés avec une petite invention.
Qu'est-ce que vous nous dites? Arrêtez de penser qu'en brûlant un peu la bougie, vous allez la faire durer plus longtemps, c'est ça?
Oui, parce que finalement, derrière toutes ces peurs qu'on crée, il y a quoi? Il y a l'idée qu'on peut, si on veut, vivre éternellement, rester jeune toujours, la santé parfaite. Oui. Mais c'est faux. C'est faux. Moi, tous les jours, à ma constatation, je vois des gens qui ne fument pas, qui ne boivent pas, qui font du sport, qui sont quasi végétariens et qui ont quand même un cancer. Et à l'inverse, on connaît tous le papy dans le village qui fume, qui boit, qui machin et qui vit jusqu'à 90 ans. C'est pas aussi simple qu'on veut nous le faire croire.
Alors, nous ne sommes pas tous égaux face au risque, nous dites-vous. Ça semble une évidence pour vous et en même temps, vous savez que la société française, là aussi, est une société égalitaire. Ouais. Donc on a tendance, l'égalité, j'ai envie de vous dire, est un formidable projet auquel nous adhérons tous, mais c'est pas une réalité, c'est ce que vous nous dites?
Pas du tout. C'est un des pays, c'est un pays très inégalitaire, la France. Quand j'ai créé le plan cancer avec le président Chirac, on a regardé la mortalité par cancer en France. Quand même, elle varie de 1 à 6 selon l'endroit où vous vivez. Alors pour une société égalitaire, pardon. Non, on n'est pas tous égaux face à tous les risques, à tous les dangers dont on nous parle et donc aux risques que cela implique. Et ce qu'il faut, c'est arriver à se connaître. Ce que je fais dans le livre, c'est que je fais une typologie d'individus en fonction de l'âge, de plein de choses. Et c'est vrai qu'il y a certaines situations, oui, où votre risque peut augmenter et là, vous pouvez faire quelque chose. Mais il faut bien vous dire que ce qui est bon pour le copain n'est pas forcément bon pour vous. Que si quelqu'un est végétarien, mais c'est pas pour ça que vous devez être végétarien. Il faut arriver à vivre soi-même sa vraie personnalité avec ses 3 kilos en trop, avec sa portion de frites de temps en temps, avec son petit verre de vin. Bon, arrêtez de vous culpabiliser, c'est ça le livre.
En vous lisant, je me disais, le stress est sans doute la chose la plus inquiétante auquel vous puissiez être confronté.
C'est vrai.
En plus de la maladie qui peut arriver.
Bien sûr.
Mais en quoi le stress est-il vraiment un facteur
Le stress, il vient de la culpabilité. Hein. Le stress, c'est parce qu'on vous a dit qu'il ne faut pas manger de viande et que vous avez eu envie d'une côte de bœuf, vous avez mangé ça et du coup, vous dites, je me sens coupable et donc je suis stressé, je risque d'attraper le cancer. Oui. Bon, alors, le stress est très mauvais parce que il semblerait que ça puisse augmenter votre risque de développer un certain nombre de maladies, que ce soit le cancer, les maladies cardiovasculaires, le diabète, etc. Pourquoi? Parce que le stress, quand il devient très important, alors heureusement, c'est pas votre stress de vous lever tous les matins à 4 heures, je sais pas, j'imagine, c'est le stress quand vous n'en pouvez plus, c'est-à-dire quand il est, oui, tellement fort qu'un jour, vous vous réveillez, vous vous dites, non, je vais pas me lever, je vais mourir.
L'épuisement.
J'en peux plus.
Ça s'appelle l'épuisement.
Alors, ce stress-là, il devient vraiment délétère, il fait du mal à votre santé.
Un dernier message, au cœur de l'hiver, avec des journées peu lumineuses, du froid, de la pluie, quel est le conseil simple que vous avez envie de donner à tous ceux qui vous écoutent? Vous êtes un médecin extrêmement respecté ce matin, je dirais, pour qu'ils vivent leur vie mieux et qu'ils sachent arrêter de se priver. C'est le titre de votre livre, je le rappelle.
C'est très simple, hein, c'est arrêter d'avoir peur de tout. Vous ne vivrez pas 100 ans de plus parce que vous mangez plus de sucre, vous mangez plus de gras, vous mangez plus de machin. Mangez, faites des excès. Et pas que manger, le livre ne parle pas que d'alimentation. Faites des petits excès. Par exemple, on vous dit qu'il faut faire du sport. Non, il faut faire de l'activité. Quand vous faites...
Activité physique.
Mais c'est pas pareil l'activité et le sport. Qui avec le boulot, une heure de transport le matin, une heure le soir, 8 heures de travail, qui a encore le temps d'aller faire du sport? Mais l'activité c'est quoi? Ben c'est simple, hein. Et nettoyer votre baignoire pendant une demi-heure, enfin votre salle de bain pendant une demi-heure, c'est 200 calories. C'est de l'activité. Téléphoner debout plutôt qu'assis au bureau, c'est de l'activité. Et je dirais aux gens, profitez de la vie, parce que franchement c'est un don de Dieu. Enfin, ce qu'on veut croire ou pas, mais c'est une chose magnifique la vie. Et essayez d'en profiter, ne la gâchez pas. Si vous faites un excès, arrêtez de vous culpabiliser. Le lendemain, faites un peu de diète, faites un peu attention, courez un peu plus et tout va rentrer dans l'ordre.
Profitez de la vie, ce sera donc la dernière phrase que nous retiendrons ce matin. Arrêtez de vous priver, votre livre vient de paraître aux éditions Albin Michel. Merci infiniment professeur Caillat.
Merci
d'être venu ce matin sur RTL. Bonne journée à vous.
Merci.
Dans un instant, la météo et Louis Bodin, lui aussi a décidé de profiter de la vie.
RTL Matin.
Louis Bodin.
Oui.
Humide et frais, voilà,
oui.
C'est notre météo.
Oui, c'est ce qui nous attend ces prochains jours, c'est ce qui nous attend aujourd'hui, avec de l'humidité sous forme de pluie, de neige en montagne. Attention au verglas ce matin, on le répète, hein, du massif central quasiment jusqu'au nord-est. Il y a un fort risque tout au long de la matinée, donc cet après-midi de la pluie pour tout le monde, sauf près de la Méditerranée. Demain, la perturbation qui va nous donner ces pluies aujourd'hui va se décaler un petit peu vers l'est. On la trouvera principalement entre la région Rhône-Alpes et la Lorraine ou encore l'Alsace. Oui. Ça donnera de la pluie, voire un petit peu de neige jusqu'en pleine nouvelle fois sur la Lorraine, l'Alsace ou encore du côté de la Franche-Comté. Un peu plus sec dans l'ouest et le sud où on aura toujours du Mistral et de la Tramontane. Alors demain, les températures sont quand même un peu plus de saison avec moins de gelée le matin et des valeurs qui approcheront les 8-9 degrés dans la moitié nord, un peu plus de 10 degrés dans le sud. Pour la fin de semaine, bien, on va continuer à avoir cette perturbation. Alors,
oui.
Elle devrait rester pour la journée de entre jeudi et vendredi dans les régions de l'Est. Comme on aura de l'air un peu plus froid, peut-être un épisode de neige en pleine une nouvelle fois Lorraine, Alsace, débordant vers le Massif central. Vous voyez que dans l'Ouest, en Île-de-France et dans le Sud, on devrait rester un peu plus au sec. Et puis d'accord. Pour ce week-end, grande incertitude. J'ai un modèle qui me dit samedi il fera beau, dimanche il pleuvra, et j'en ai un autre qui me dit exactement le contraire.
Ah bon ?
Donc vous voyez que c'est, voilà, je vous livre
mais
ça.
Comment est-ce possible ?
Tout simplement parce que la météorologie apprend l'humilité. On ne sait pas encore tout.
On a des modélisations successives qui bougent tout le temps,
comme le temps lui-même, exactement. Donc voilà pourquoi je vous livre ça. Ce week-end, ça restera donc probablement perturbé ou samedi ou dimanche,
oui.
Avec de l'air relativement frais, donc toujours beaucoup de neige en montagne. Et vous voyez, sur la chronologie, ça reste très incertain.
Dites-moi, c'est pas simple en ce moment.
Ah, pas du tout. Je peux vous le dire. Je regarde les modèles toutes les 6 heures pour essayer d'affiner un peu tout ça.
Alors, froid, humide, variable, et ça va durer. Merci beaucoup, Louis Bodin.
Merci.
RTL. Vous êtes comme ça.
Vous êtes comme ça, notre rendez-vous de curiosité et de découverte nous conduit ce matin dans un atelier inédit en région parisienne. 9 migrants, venus principalement d'Afghanistan, ont intégré une formation de couturier il y a un mois et demi. Bonjour Émilie Beaujard.
Bonjour.
Vous avez passé quelques heures avec ces 9 apprentis couturiers qui découvrent un nouveau métier et en fait une nouvelle langue.
L'atelier se trouve au fond d'un entrepôt de 18 000 mètres carrés. Derrière cette porte, une pièce sans fenêtre, des grandes tables avec des chutes de tissu dessus et à droite, 3 machines à coudre professionnelles.
Lisa, tu vas me faire les points ici, on va faire les points de bois. Alors tu me laisses 1 cm, hein, 1 cm.
D'accord.
Ok.
Devant une de ces machines, on entend Thierry, styliste de formation. Il est entouré par 9 jeunes réfugiés.
Alors on met une épingle ici et une épingle ici, comme ça permet de jouer.
D'accord.
Est-ce que vous avez compris?
Finaliser mieux.
Oui, c'est mieux fini. Oui, on peut mieux finaliser, c'est très bien. Qu'est-ce qu'on va faire là après? Maintenant qu'on a mis les épingles, on passe à quelle étape?
Après, on coupe.
On coupe. Le verbe coudre est très compliqué. Voilà, travail. Donc maintenant,
c'est bien.
On travaillait sur un gilet qu'on a réalisé. Donc on est parti de. On a fait une toile, ce qu'on appelle une toile de patronage. Ils ont appris à prendre les mesures, de couper la pièce et de monter la pièce. Et le défi, c'est de partir d'une feuille blanche et d'arriver à avoir un vêtement qui serait du prêt-à-porter haut de gamme. Tu trembles pour mettre une épingle. T'as peur de te piquer? Tiens, allez, maintenant tu finis la manche là.
Très concentré, Jared Hussein apprend à coudre bord à bord. Cet Afghan de 31 ans est arrivé en France il y a 3 ans.
J'ai appris la mesure un petit peu. J'ai appris coudre. Ah oui.
Et ça vous plaît?
Oui, pourquoi pas. C'est un travail facile.
Vous apprenez aussi tous les termes en français?
J'entends beaucoup de mots. Couper, coudre, ciseaux, fils, machine, il y a beaucoup de mots.
Alors tous ne sont pas novices en couture, certains travaillaient déjà dans des ateliers dans leur pays. Ici, ils se remettent à niveau, découvrent de nouvelles techniques, avec pour objectif d'apprendre un savoir-faire et la langue française.
Nous sommes bien d'accord, le but, Émilie, c'est qu'ils puissent travailler et s'intégrer durablement en France grâce à cette formation.
Oui, c'est de leur donner les bases du métier de couturier, surtout qu'en Ile-de-France, il y a de la demande, comme l'explique Maya Perso, la fondatrice de l'association Espero, à l'origine de ce projet.
On est dans la capitale de la mode, Paris, il y a une demande, il y a énormément un besoin de savoir faire en couture en Ile-de-France. Oui, on invite des couturiers pour expérimenter, pour voir, par exemple, on a un prototype ici qu'on a amené aujourd'hui, qui vont fabriquer pour voir si éventuellement ces couturiers peuvent nous prendre pour faire une petite série, peuvent travailler avec nous.
Et des couturiers leur donnent aussi des chutes de tissus pour qu'ils puissent travailler, car le recyclage des matières est aussi au cœur de leur projet. Et surtout, cette formation leur redonne de l'espoir.
Ils se sentaient valorisés pour une fois. Ils ont un talent. Il y en a un qui faisait le ménage alors qu'il était couturier dans son pays depuis 10 ans, en fait. Donc, de pouvoir travailler dans leur domaine et de voir que quelque chose qu'ils savent faire est valorisé dans ce pays, c'est une manière de redonner la dignité. Et puis, je crois que c'est une bonne chose pour notre économie et pour notre pays.
Pour l'instant, l'association les forme 2 fois par semaine pour une durée de 18 mois. Mais toute l'équipe d'Espero compte bien faire grandir l'atelier pour qu'il puisse accueillir bientôt d'autres couturiers en devenir.
Vous êtes comme ça avec ces migrants qui apprennent la couture. C'est un reportage d'Émilie Beaujard à retrouver sur le site rtl.fr.
RTL Matin, la face cachée de la Une.
Il est 8h40 et ce matin, Isabelle Choquet, nous pénétrons avec vous dans un endroit très secret, l'Institut Rosenberg.
Que l'on présente souvent comme la garderie du Forum de Davos. Depuis plus d'un siècle, ce pensionnat 5 étoiles accueille les rejetons des familles les plus fortunées du monde. Visite guidée cette semaine dans le magazine Elle. Nous sommes à Saint-Gall, à la frontière avec le Liechtenstein, entre les Alpes et le lac de Constance. Perché sur une colline, une dizaine de petits manoirs art nouveau entourés de grilles roses, décors de vitraux et de statues de chérubins en céramique. C'est un peu Poudlard, l'école des sorciers d'Harry Potter, dans une carte postale de sport d'hiver. Derrière ces grilles, 300 élèves, costumes cravates pour les garçons, jupes plissées et blazers pour les filles. Vous ne saurez pas qui sont leurs richissimes parents. Ici, on ne brandit pas le pédigré des élèves pour se faire de la pub, ce serait d'un commun. Tout ce que je peux vous dire, glisse le directeur, c'est que les parents qui mettent leurs enfants à Rosenberg sont des gens très généreux. On s'en serait douté, vu que l'inscription coûte plus de 120 000 euros par an. Tout de même. Pour ce prix-là, les élèves sont chouchoutés et ultra stimulés. Il suffit de regarder l'emploi du temps d'un collégien, on dirait celui d'un étudiant en master dans une université de prestige. Il y a la base, le son de codage ou de prise de parole en public, et puis les options, diplomatie et leadership, business familial ou encore robotique appliquée. Certains cours sont assurés par des profs d'Harvard, et niveau équipement, on est presque à la NASA. Il y a une imprimante 3D, un équipement de réalité virtuelle, une machine à hologramme, et même une serre qui simule le climat en 2050, histoire d'envisager l'avenir de l'agriculture. On est bien loin du bricolage de nos cours de techno à nous, Yves. Ici, pas de cours magistraux, pas de bachotage. Rosenberg pratique la pédagogie inversée. C'est l'élève qui est censé créer son propre savoir. Ce qui prime, nous dit-on, c'est la curiosité, la connexion émotionnelle entre l'élève et le sujet. Alors, pour que ça connecte bien, l'école propose un encadrement très personnalisé, environ 3 élèves par professeur et près de 700 cours différents chaque semaine, agencé grâce à un algorithme et à une intelligence artificielle. Chaque emploi du temps, en fait, est taillé sur mesure. Mais bon, devenir maître du monde, c'est fatigant. Donc tout est prévu pour que les futures élites se reposent. Chaque pensionnaire dispose de sa propre suite, avec salle de bain en marbre et parquet en bois de cerisier, pas mal. Pour la détente, plusieurs terrains de tennis, un golf de 400 mètres carrés et un yacht pour des sessions de jet-ski sur le lac de Constance. À la cantine, pas de maillot en self-service, non, on sert à table des repas cuisinés par des chefs, repas garantis 100% healthy et locavore, bien sûr. En face du réfectoire, justement, il y a un grand panneau noir avec un chiffre, 0,045%. Pourcentage de la population qui a les moyens d'étudier dans ton école. Un pense-bête pour rappeler aux gamins qu'ils sont privilégiés et aussi qu'on est entre soi, entre super-héritiers. La mixité connaît pas. Les gamins parlent tous au minimum 3 langues. Le plus gros contingent vient de Russie ou d'anciens pays soviétiques. Les parents règnent sur une dynastie industrielle où ils travaillent dans la tech. Ils vivent souvent sous la protection de gardes du corps et ils n'ont qu'une crainte, c'est que leurs enfants soient élevés ou soient enlevés ou raquettés.
D'où la discrétion du lieu et les caméras de sécurité à chaque étage. Après leur passage dans ce cocon, les étudiants s'éparpillent dans les meilleures universités du monde. La France est hors jeu. Pour eux, c'est une sorte de province folklorique, tout juste l'objet d'un dîner spécial, South of France, mitonné par le chef étoilé. Voilà, l'école du Gotha, c'est un reportage à lire dans Elle cette semaine.
Ça se passe dans le canton de Saint-Gall, en Suisse. Merci beaucoup Isabelle Choquet. Demain matin.
À demain.
Dans un instant, nous avons rendez-vous avec Laurent Gérard et toute son équipe.
RTL Matin avec Yves Calvi.
Bonjour Laurent Gérard.
Bonjour Yves, bonjour Mademoiselle Jade.
Ça commence. Bonjour Monsieur Calvi.
Et bonjour. On est rieurs.
Oui, rieurs. C'est comme ça. Cette nouvelle année politique qui commence sera marquée par les élections régionales de juin prochain. Déjà sur la piste de départ, la France Insoumise entend bien se faire entendre. Bonjour François Ruffin.
Bonne année madame. Pour 2021, je vous souhaite de rallumer les soleils, les étoiles et le bonheur.
Ah, c'est gentil à vous. Ce sont les vœux que vous avez formulés sur Twitter, n'est-ce pas?
C'est ça, je suis bien appliqué, puis j'ai aussi fait un joli dessin.
Ah, en effet, très réussi votre dessin. C'est un feu d'artifice?
Non, c'est l'Élysée qui brûle avec Macron qui saute par la fenêtre.
Bien. Alors, bonne année 2021 vous aussi, et surtout bonne santé.
Et bonne année, bonne santé. Mais qu'est-ce qu'il fout là encore, Ruffin?
Ah ben tiens, ben bonjour aussi, Jean-Luc Mélenchon. Bonne année 2021.
Mais on s'en fout de 2021. Nous, ce qu'on veut à la France Insoumise, c'est 2022, tout de suite.
Ah oui, c'est vrai. J'oubliais que vous avez déjà débuté votre campagne présidentielle de 2022.
Et alors, ça te défrise si je suis en avance sur mon temps? Quand je serai président, je donnerai mon avis sur tout et tu feras moins la maline.
Oui, c'est pour vous préparer que vous êtes intervenu sur les vaccins. Vous dites qu'il vaut mieux utiliser les vaccins chinois, cubains et russes plutôt qu'américains.
C'est ça, la France Insoumise, on a déjà tous essayé. Mon Roukmout, Adrien Quatennens, a eu le vaccin cubain au rhum.
Oui.
Manon Aubry a eu le vaccin russe à la vodka et Alexis Corbière, le chinois au saké.
Et le vaccin américain?
Et moi qui l'ai eu, madame.
Et voilà, vous voyez le résultat? C'est pour ça qu'il faut refuser le vaccin américain, il est dangereux.
Bon, bah, la démonstration est limpide. Merci, messieurs. Et prenez une part de galette, tiens, si le cœur vous en dit.
On n'en veut pas de tes vœux, ni de ta galette, encore moins de ta couronne.
Oh là là.
Ah, bah si, moi, je veux bien une couronne. J'ai cassé la mienne en croquant dans la fève.
Mais qu'il est con!
Sans surprise, le gouvernement a reporté la réouverture des cinémas, des théâtres et des salles de concert initialement prévues le 7 janvier.
Ah,
bonjour Patrick Bruel. Vous allez devoir patienter encore un peu avant de retrouver votre public.
Ah non, c'est horrible, c'est horrible. J'avais tout prévu pour remonter sur scène en janvier. Regarde, je me suis même fait une nouvelle couleur, t'as vu?
Ah oui, j'ai vu.
C'est brun,
oui.
Encre de sèche.
D'accord.
C'est le coiffeur de François Hollande qui me l'a faite. C'est beau, hein?
Oui,
hein,
magnifique.
Je raconte.
Mais oui. Mais vos fans devront attendre encore un peu pour la découvrir. Eh oui.
Non, c'est pas possible. J'en ai marre de faire des lives en robe de chambre devant ma webcam. Je peux plus attendre. Enfin, si, moi, je peux, mais mon public, je peux pas le laisser comme ça sans lui faire l'amour avec ma voix. J'ai donc décidé de. J'ai décidé de me reconvertir.
Ah oui? Dans quel domaine?
Eh bien, dans le dernier domaine où on peut encore s'adresser au public, c'est-à-dire les médias.
Quoi? Vous voulez devenir journaliste?
Journaliste, chroniqueur, animateur,
oui.
Peu importe. Tu me donnes un micro et moi je te les anime, tes émissions. Tiens, écoute, je peux te faire toi.
Oui.
Bonjour, monsieur Calvi. Et bonjour à tous.
Ah ben oui, c'est très ressemblant, c'est presque moi.
Je peux te faire l'après-midi aussi.
Oui.
Bonjour, c'est Yannicky, bienvenue dans la grosse tête. Quand on va, on a du mal à croire que la rentrée sera chaude.
Mais vous le faites bien aussi. Oui. Mais la place est déjà prise là.
Non, mais c'était juste un exemple.
Ah, d'accord.
Je peux tout faire. Je peux aussi te faire Pascal Proust. Si tiens, écoute.
Ah oui, je veux.
Faut y remettre un coup de pied au cul au pignouf qui nous gouverne. Je pose la question, 32.
Merci, Patrick. C'est criant de vérité, mais c'est pareil, la place est prise.
C'est pas grave, je peux aussi faire l'animatrice, tu veux, tiens, écoute. Bonjour, oui. Ça fait le vif en on est fait pour s'entendre, nous allons parler de vos remèdes de grand-mère contre les ballonnements ménopausaux.
Non plus, on est complet là, Patrick. Allez.
Oui, je sais, mais c'est hyper injuste. En tout cas, ce que je veux, c'est qu'on me vaccine tout de suite. J'ai signé l'appel.
Ah, il va falloir attendre un peu, vous n'avez que 61 ans, Patrick.
Ah, ça va pas te donner mon âge.
Ah oui, pardon.
Déjà que j'arrête pas de recevoir des coups de fil pour les montes-escaliers, les conventions obsèques. Pour le vaccin, je lance un appel à toutes mes fans qui sont en EHPAD.
Oui.
Donnez-moi votre place.
Allô. Alors qu'un variant anglais du coronavirus inquiète les scientifiques, 200 personnalités de la culture ont signé un vibrant plaidoyer pour la vaccination. On fait le point avec l'un des signataires de la pétition, le slameur Grand Corps Malade. Bonjour Grand Corps.
C'est important de se vacciner pour ne pas être contaminé. Avec Pfizer et Moderna, il n'y aura plus de tout, plus de crachats. On sera tous immunisés. On pourra faire des verres à pied.
Oh, c'est très joli. Merci pour ce poème, Grand Corps. Vous pensez que la pétition des 200 artistes sera suffisante pour inciter nos anciens à se faire vacciner?
C'est un appel à faire piquer tous les pépés, toutes les mémés. Aux hespérides comme aux vieux glands, ils l'auront tous dans le fondement.
Effectivement, ça devrait les décider. Merci, Grand Corps Malade, et bonne convalescence.
Excuse-moi de t'interrompre dans l'émission de toi de la petite matin.
Ah ben tiens, bonjour Jane Birkin. Vous aussi, vous avez signé l'appel des artistes pour le vaccin?
Oui, bien sûr, parce que tu sais, c'est très important de faire la vaccin dans le fesse,
oui,
ou dans la bras,
oui.
Parce que la virus, il a muté.
Eh oui.
Il est très dangereux, la virus. Maintenant, il s'attaque aussi aux vieilles anglaises, c'est dégueulasse.
Très bien, ben merci beaucoup de votre mobilisation, Jane.
Bon, ben moi là, on me demande pas si je suis pas contre le vaccin qui donne la 5G, le gars.
Oui, bonjour Jean-Marie Bigard, c'est vrai, on vous a pas vu dans la liste des signataires.
Ah ben, moi, le vaccin de Bill Gates, ça me rappelle l'histoire du gars qui a une énorme paire de couilles, le gars. Tellement elles sont grosses, il les met dans une brouette, le gars. Alors l'infirmière, elle lui dit comme ça, hein, « Vous voulez que je vous pique ?» Alors le gars, il lui dit, « Faites le tour et piquez-moi demain dans le cul, le gars. »
Des chercheurs de l'Université de Caroline du Nord ont découvert que les flavanols présents dans le vin contribuent à freiner l'activité du SARS-CoV-2 à l'origine de la Covid-19.
Fumier !
Bonjour Gérard Depardieu. Pourquoi vous râlez ? C'est plutôt une bonne nouvelle.
Je râle contre les pignoufs qui nous servent de dirigeants et qui ont décidé de fermer les bistrots. C'est pas des centres de vaccination qu'il faut ouvrir. C'est des bars à vin, nom de Dieu.
Vous exagérez, Gérard.
Mais non ! Plutôt que de négocier avec Pfizer et Sanofi, il ferait mieux de commander des doses à Sancerre et Petit Chablis.
Ça peut aider, mais c'est pas non plus ça qui stoppera la pandémie de Covid.
Oh mais si ! D'ailleurs, quand on trinque, qu'est-ce qu'on dit ? Hein ? Santé !
Ben oui.
Voilà ce qu'on dit, santé. Hein ? C'est bien la preuve que le vin guérit tout.
Bon, je me dois quand même de rappeler que le vin est à boire avec modération.
Mais non, puisque ça soigne ! Quand t'as mal à la tête... Tu prends pas une aspirine avec modération. Hein? Ben là, c'est pareil. Et c'est pas moi qui le dis, c'est Caroline. Elle est bien, cette petite. Je l'aime bien, moi, Caroline. C'est une brave môme.
Non, ce sont des chercheurs de l'Université de Caroline du Nord.
Eh ben, pour une fois que les chercheurs trouvent un truc, faut les écouter.
Voilà.
Alors, sors-moi trois verres. Il y avait une petite bouteille qui traîne sous le bureau de M. Calvi. Sinon, je demande à M. Lignac. Il a forcément un fond de vin blanc au frigo pour son courbouillon. Je soif, nom de Dieu!
Merci à toute l'équipe. On vous retrouve dès demain matin sur le site RTL.fr. Cyril Lignac est avec nous. Je ne sais pas où il a mis la bouteille, mais elle ne doit pas être très très loin. À consommer avec modération, doit-on pouvoir ajouter dans ces cas-là. Dans quelques instants, vous allez vous proposer une bonne tarte au sucre. Hein.
Oui.
Ah bah voilà, à tout de suite Cyril. 8h57, cher Cyril Lignac, Guy vit à Saint-Jean-les-Longuillons, c'est en Meurthe-et-Moselle, et il vous demande une recette de tarte au sucre simple et bonne. Dites-nous tout.
Alors, j'ai fait une petite recherche, parce que la tarte au sucre, c'est pas vraiment un dessert que je fais.
Non.
Déjà parce que je trouve ça très sucré, mais ça fait quand même partie de nos traditions. Alors, il y a deux variations de tarte au sucre. Il y a la tarte au sucre du Québec, alors ça, quand même, je savais pas, où on la mange, elle, en tarte de pâte brisée, avec du beurre, de la crème fraîche, du sucre ou du sirop d'érable. Là, je comprends mieux pourquoi c'est au Québec.
D'accord.
Et sinon, nous, dans le Nord et la Belgique, on la mange à base d'une brioche.
Ah.
Alors, là, j'ai pris ma recette de pâte à brioche, donc 300 g de farine, 10 g de sucre, une pincée de sel. On fait un petit puits dans le batteur. On ajoute 8 g de levure de boulanger sèche qu'on peut acheter au supermarché maintenant. C'est assez, c'est génial et très pratique. On peut aussi la demander au boulanger. On met 20 ml de lait tiède pour que la levure actionne, 2 œufs entiers, et là, on pétrit. On a cette base de brioche. Ça, c'est vraiment la base de toutes les brioches.
D'accord.
Et après...
On la laisse reposer ou pas ?
Pas encore.
Ouais, pop, pop.
Après, c'est à convenance, Maître Calvi.
Oui.
Si vous voulez une brioche bien aérée, bien grasse, mais on ajoute à fond du beurre. Si on y va, on y va en fait de deux manières. Donc, moi, je mets environ 150 g de beurre bien tassé.
D'accord.
Et on pétrit. Et là, après, on laisse pousser. Une fois qu'elle a poussé pendant 2 heures au-dessus du fourneau, là, dans la cuisine, vers 28 degrés, elle gonfle. Et là, on la dégaze, c'est-à-dire qu'on appuie dessus pour enlever les levures qui travaillent. Et ensuite, on l'étale. C'est un peu comme une tropézienne, une tarte tropézienne, en fait. On l'étale et ensuite, on l'emporte-pièce, on la laisse repousser pour qu'elle retravaille. Et à côté, je fais un mélange avec 2 cuillères à soupe de crème fraîche, un œuf. Et je fais des petits trous comme une focaccia. Mm-hmm. Tac, tac. Au lieu d'y mettre des tomates cerises, je mets du sucre et ma petite crème. Et là, je le cuis au four à 190 degrés pendant 25 minutes. Elle est bien dorée, bien caramélisée. Alors, il y a 2 écoles. Sucre traditionnel, sucre cassonade, de la vergeoise.
En tout cas, j'ai constaté que beurre, sucre, œufs, vous ne rajoutez rien qui parfume. Hein. On en reste à la pâte elle seule.
On en reste à la pâte elle seule.
Bon.
Et si je l'avais parfumée, avec de la fleur d'oranger, juste cette brioche avec une crème à l'intérieur, on serait parti vers une tropézienne. Mais là, on est bel et bien dans le Nord.
Est-ce qu'on a dit combien de temps on l'enfournait et à quelle
25 minutes.
À quelle chaleur,
190 degrés.
Ben voilà,
parce qu'il faut que ça pousse, la brioche.
Oui.
Et à la fois, il faut qu'elle cuise et qu'elle caramélise.
Recette de tarte au sucre briochée, signée Cyril Lignac. Merci beaucoup, Cyril. À demain
matin.
À demain. RTL, il est 9.